t'attaches tes souliers avec des vieux cordons. Tu sors les nettes d'Henri, puis tu check tes bâtons. À soir, on va jouer avec deux paires de bodelaine, mais s'empêche pas ton chum de se prendre pour Pat la Fontaine. Les sorts de Buffalo sont excités, ils jouent contre les North Stars à l'étranger. On s'en va jouer.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast pour l'épisode numéro 23. Et aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la semaine spéciale Bob Bissonnette que je recevais en fait Marie-Pierre Simard pour le premier épisode et pour le deuxième, Bruno Gervais, que je suis très heureux d'avoir reçu, de vous présenter dans le podcast. Écoutez, Bruno Gervais, c'est un ancien hockeyeur de la Ligue nationale de hockey qui a fait également un long parcours au niveau du hockey professionnel, que ce soit en Europe, également dans la Ligue américaine. Dans le fond, Bruno, c'est ça, je voulais le recevoir parce que c'était un des bons amis de Bob Bissonnette, que je fais une semaine spéciale Bob Bissonnette, en fait, parce que j'ai énormément de respect pour la carrière de Bob et je voulais lui rendre hommage parce qu'on sait que Bob, malheureusement, est décédé d'un accident d'hélicoptère il y a déjà cela plus de 4 ans. Et puis, dans le fond... En tant que grand fan de sa musique à Bob, je voulais revivre un peu les bons moments de sa vie, qu'on se remémore Bob d'une bonne façon. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, ben en fait, de le faire découvrir aux gens de Montréal surtout, parce que je suis de la région métropolitaine dans les Laurentides, et puis de pouvoir faire découvrir Bob à ces gens-là qui ne l'ont peut-être pas vu en show parce qu'il était très, très connu, surtout de la région de Québec et dans toutes les régions également du Québec, à part Montréal, bien sûr. C'était une personne qui avait un grand impact au niveau de tous les sportifs qui aimaient écouter des tunes dans la chambre de hockey ou autour d'un feu après la game, parce que c'était des tunes axées sur le sport, mais également n'importe quoi au niveau folklore québécois, vraiment des tunes humoristiques. Bob Bissonnette a été une véritable rock star pour l'ensemble du Québec durant sa courte carrière, parce qu'il a eu une carrière quand même très belle, malheureusement trop courte au niveau de la chanson de 2010 à 2016. Et puis, ses tunes jouent encore à la radio dans le coin de Québec et dans nos oreilles pour tous les fans qui nous écoutent à l'heure actuelle. Et puis, c'était pour moi ma façon à moi de lui rendre hommage à Bob, de lui faire ces deux épisodes à consacrer entièrement à son honneur. Et puis, bien sûr, on a parlé aujourd'hui à Bruno Gervais, donc j'avais pas le choix de parler de sa carrière de hockey, bien sûr, et c'est incroyable. Bruno Gervais, c'est 13 saisons, plus de 418 matchs dans la Ligue nationale de hockey pour les Islanders, le Lightning et les Flyers de Philadelphie. C'est vraiment une super belle carrière que Bruno a connue. Et puis, on a parlé assez longtemps de sa carrière parce que j'avais promis une demi-heure de chaque, une demi-heure sur lui et sur Bob, mais finalement, ça a débordé à quasiment une heure sur sa carrière. Je suis extrêmement content qu'il m'en aille partager aussi davantage parce que c'est tellement exceptionnel ce qu'il a vécu d'avoir joué contre des gars comme Crosby à tous les mois, c'est fou. Il a connu les meilleurs joueurs au monde pendant plus de 13 saisons. Et puis, c'est vraiment un homme extrêmement généreux que j'ai découvert. Beaucoup de propos. On le voit à RDS également parce que Bruno est devenu analyste aujourd'hui au réseau des sports et puis qui nous parle de sa transition en fait de joueur de hockey à analyste. C'est super intéressant de comprendre tous les petits détails de sa carrière à l'heure actuelle. Également de sa belle relation avec Max Talbot. Parce que pour ceux qui connaissent Max Talbot de RDS, mais également l'ancien joueur, c'est le meilleur ami de Bruno Gervais. Ils font également une émission ensemble qui s'appelle Max et Bruno sur les ondes RDS depuis l'automne dernier. Et puis, c'est super intéressant. J'adore écouter cette émission-là. Et également dans l'émission d'un autre angle qu'on a également parlé dans le podcast qui raconte, dans le fond, qui est pendant un match de hockey, qui font une analyse en direct avec toutes sortes d'anciens joueurs, des coachs, quoi que ce soit, sans commentateur, simplement analyser le match, donner des anecdotes, des choses qu'ils ont vécues, des petits conseils ici et là. Vraiment une émission que je vous conseille d'écouter, qui va revenir, on a appris dans le podcast, qui va revenir pour une autre saison dès l'automne. Donc, vraiment très, très intéressant. Et puis, oui, c'est ça, dans le fond, j'avais plein de questions à lui poser. On a abordé le plus possible de questions. Malheureusement, il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps de parler parce que je ne voulais pas trop lui prendre de son temps. Mais il a été énormément généreux, gentil. Ça a été un honneur de le recevoir, Bruno, au podcast. Et puis, oui, on a parlé dans la dernière 25 minutes, une demi-heure du podcast de Bob Bissonnette, bien sûr. Écoute, des anecdotes drôles, c'est vraiment savoureux. Je vous dis, soyez patients vers la fin du podcast. Et surtout la dernière anecdote de voyage aux Bahamas avec Bruno Gervais, Max Talbot et Bob Bissonnette, bien sûr. C'est du bonbon. C'est vraiment du bonbon. Un plaisir pour les auditeurs, en fait, tous ceux qui veulent entendre une bonne anecdote de Bob Bissonnette. Vous en allez avoir plusieurs à entendre. Vraiment, un gros, gros merci à Bruno Gervais pour sa présence dans le podcast. Et puis, en fait, je vais faire ça plus court aujourd'hui dans l'intro. Désolé pour ceux qui trouvent que mes intros sont trop longues, là, des fois. Je me laisse emporter par l'émotion et puis toutes les belles, la belle heure, même des fois 3 heures que je viens de vivre avec un invité, là. Donc, j'ai envie de vous en raconter davantage et de vous donner mes impressions de l'entrevue parce que l'intro est toujours tournée après l'épisode. Donc, c'est pour ça que je peux vous donner mes feedbacks par avant pour après. Est-ce que c'est un peu bizarre, là, mais vous me comprenez. Et puis, oui, dans le fond, je voulais terminer l'intro en vous disant que la saison 1 du podcast va se terminer d'ici 2 semaines, en fait. Je vais finir ça à 25 épisodes. On est en ce moment au 23e épisode. C'est vraiment largement au-delà de mes attentes. Ça a été incroyable comme saison, comme aventure. Des très bons feedbacks de beaucoup d'entre vous. Un gros merci à tous ceux qui m'encouragent, qui me suivent, qui m'écoutent. Les nouveaux auditeurs, tous ceux qui apprennent à me découvrir, merci beaucoup. C'est grâce à vous que le podcast peut continuer. Et vous êtes la raison, en fait, pourquoi je fais ça. Mon but est de vous inspirer à travers le confinement. On n'est plus vraiment en confinement. Là, je dis ça, en fait, depuis le début, mais on est vraiment déconfiné à l'heure actuelle, espérant qu'on ne le revienne pas. Mais c'est vraiment ça, c'était de vous inspirer dans une période qui est plus ou moins facile en ce moment quand même, de garder le moral, d'avoir de l'inspiration, de créer des nouvelles choses, des nouveaux projets, un peu comme mon podcast, de vous prouver que tout ça est faisable. Je suis parti de rien sans aucune connaissance dans le podcast. Vraiment, là, je connaissais rien, 0.1 bar, montage, audio, vidéo, tout ça. Je connaissais rien là-dedans. Et puis, je suis vraiment très satisfait, fier du parcours que j'ai parcouru déjà depuis 2 mois et demi. C'est fou quand on dit que le podcast n'existait pas depuis là, 2 mois et demi, en fait. Et puis, en ce moment, on est déjà rendu à 23 épisodes quand on pense à des Mark Griffin, Pat Côté de la UFC. Écoute, Alex Barré-Boulay, Alexandre Alain. Là, j'ai reçu Éric Gagné, justement, la semaine dernière. Renaud Lafort des Quatre Chevaliers. J'en passe, Éric Champoux, Marie-Christine Martel, Jeannie Potvin-Duval. Écoute, je vous remercie. Valérie Letourneau. Écoute, vraiment, là, ça a été un honneur de tous vous recevoir. Désolé de ne pas toutes vous nommer, mais vraiment, là, allez les gens voir toute la liste d'invités. Puis même si vous ne connaissez pas les noms, parce que oui, je le sais, j'ai des gens plus connus que j'ai reçus dans le podcast. Je veux vraiment que vous appreniez à connaître chacun des invités. Écoute, chacun a sa petite sauce. Il y en a qui ne sont pas connus de nom, comme je pense à Valérie Letourneau, justement, là, qui est propriétaire du Yeti Bar Laitier à Contrecoeur. Une histoire d'entrepreneur incroyable, hyper inspirante, la fille. Je vous dis, allez écouter ce podcast-là, l'épisode numéro 8. Si j'ai une bonne mémoire qui est tout juste avant le 7. Un peu bizarre, là, mais il y avait une raison à l'époque. Fait qu'allez le voir. Disponible YouTube, Spotify, Balado Québec. Écoutez, je vous dis, j'ai des super bons invités que j'ai eu la chance de vous présenter. C'est énormément de travail. Ça m'a grugé beaucoup, beaucoup de mon temps que je fais 100% bénévole pour vous. Alors, je vous dis, je ne retire aucune paye en ce moment de ça. Et puis, c'est justement ça que je vais travailler là-dessus parce que mon but est de vous offrir une deuxième saison encore meilleure qui va arriver cet automne. Le but, c'est que ça soit début du mois de septembre. Donc, je vais sûrement tourner durant l'été des épisodes. Et puis, je suis à la recherche de commandites. S'il y en a parmi vous qui veulent commanditer, vous avez des entreprises ou simplement vous voulez parler de vos projets, quoi que ce soit, prenez contact avec moi en privé, ça va me faire plaisir de discuter de votre projet. Écoutez, il va y avoir plusieurs forfaits disponibles, je suis en train de mettre ça sur pied. Mon but est de poursuivre le podcast, mais naturellement, j'aimerais pas en vivre, mais au moins qu'on puisse rémunérer un peu ce beau travail que je vous offre sans faire payer aux auditeurs. Mon but, c'est de pas faire payer les auditeurs qui écoutent le podcast. Donc, c'est sûr que peut-être qu'il y aurait une possibilité de don. Bref, je vais tout organiser, tout ça durant l'été. C'est mon but d'arriver à quelque chose d'encore plus professionnel à vous offrir. Et puis, je suis extrêmement, comme je vous disais, satisfait du résultat jusqu'à maintenant, espérant que ça puisse continuer pour plusieurs temps, plusieurs saisons à venir encore. Et puis, on va se surpasser avec des invités d'encore de meilleur calibre, encore plus surprenants, pas nécessairement des plus connus. Je vais garder encore la même thématique, entrepreneur, artiste, athlète, bref, il va y avoir, oui, encore du sport. Je sais que je tourne beaucoup autour du sport, mais mon but, c'est vraiment de varier les sujets pour plaire à toutes sortes de personnes, en fait, autant de femmes qu'aux hommes, peu importe. C'est vraiment mon but, c'est de bien diversifier. Et je suis extrêmement heureux de la diversité que j'ai eue dans la première saison. Alors, j'aimerais remercier tout le monde d'être à l'écoute. Encore, c'est pas terminé. Il reste encore 2 épisodes. J'espère pouvoir terminer d'ici 2 semaines ces 2 épisodes-là. Donc, merci encore une fois de votre compréhension, de votre patience, de votre encouragement. C'est extrêmement apprécié. Et je vous souhaite une excellente écoute pour le dernier épisode de la semaine spéciale Bob Bissonnette en compagnie de Bruno Gervais sur les ondes du Made in Québec podcast. Merci.
Quand tu joues d'Henri, tu peux te prendre pour qui tu veux. Stagely, Bello, ou même Mario Lemieux. Non, y'a vraiment aucune limite. Tu peux même te dire que c'est toi Bobby Smith. Peu importe le temps qui fait des heures, qui passe au soleil, ou t'es une tempête record. On est toujours prêt à faire face à la musique. On se connaît massif ou on se parle comme John Cordic. Ça pour dire qu'on est bloqué. On la mangerait au déjeuner jusqu'au souper. On ferait vraiment n'importe quoi. On en est tout comme les compatriotes. On s'en va jouer.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier et aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 23 et je reçois en fait pour la semaine spéciale Bob Bissonnette. Comme vous savez, j'ai reçu Marie-Pierre Simard qui est l'ex-conjointe de Bob dans le dernier podcast. Et puis aujourd'hui, je voulais vraiment recevoir Bruno Gervais qui était un des bons amis de Bob justement, mais également pour jaser de hockey parce qu'on le sait, Bruno est un ancien défenseur de la Ligue nationale de hockey. Puis je voulais vraiment parler de sa carrière en général, maintenant jeune retraité, membre de RDS, et puis on a la chance de l'écouter régulièrement pour ses analyses, ses bonnes analyses de hockey. Et puis récemment, justement, avec la très bonne émission qu'il y a eu dans la dernière année avec son bon ami Max Talbot, dans le fond, Max et Bruno à RDS. Et puis, on va faire un survol rapide de sa carrière, comme toujours dans le podcast. On commence avec un topo de l'invité, en fait, que je reçois. Et puis, dans le fond, si vous voulez savoir, en fait, qui est Bruno Gervais, c'est 13 saisons jouées dans la Ligue nationale de hockey, ce qui est beaucoup pour un joueur qui a été repêché quand même en 6e ronde par les Islanders de New York en 2003. Et puis, il a fait un parcours très, très long quand même dans le hockey professionnel. Il a été joué en Allemagne, dans la Ligue américaine. Vraiment, c'est un très beau parcours qu'il a vécu. 418 matchs dans la NHL. Pour un petit gars qui a débuté avec les Gaulois du collège Antoine Giroir, dans le Midget 3, en fait, du Québec. Et puis, par la suite, il a été repêché dans la LSGMQ pour le Titan d'Acadie Batters, qui a joué toutes ses saisons là-bas. Et puis, il a été capitaine également dans la saison 2002-2003, où il a connu une excellente saison, d'ailleurs, pour un défenseur, là, qui a quand même 22 buts, 28 passes, 50 points. C'est quand même très bon pour un défenseur qui est considéré défensif dans la Ligue nationale, mais on sait que Junior, c'est un peu différent aussi. Et puis, oui, il a également fait le défi Canada-Russie en 2003. Dans le fond, c'est un défi qui est très prestigieux. C'est les meilleurs espoirs, je pourrais dire, juniors au pays qui peuvent s'affronter, les meilleurs espoirs russes en vue du prochain repêchage. Donc, c'est vraiment un bel exploit de sa part. Et puis, par la suite, il a joué dans la Ligue américaine 2 ans l'année suivante de son repêchage. Donc, on parle de 2004 et 2005. Qu'il a joué avec... Ben, il y a eu la saison du lockout là-dedans, il faut dire aussi. Là, donc, il n'a pas été facile non plus pour les joueurs Ligue nationale. Et puis, par la suite, c'est ça, il a débuté sa carrière en 2005-2006 avec les Islanders de New York jusqu'en 2010-2011 quand même avec la même équipe. Assez exceptionnel ça aussi. Il était extrêmement apprécié à New York. Beaucoup de fans encore à l'heure actuelle là-bas. Et puis, il a été changé au Lightning en 2011-2012. Et puis, il a été une saison là-bas avant d'aller encore en Allemagne, mais là, c'est à cause d'un autre lockout qu'il a vécu dans la saison 2012-2013. Et puis, par la suite, la saison a été courtée de moitié. Il est allé avec les Flyers de Philadelphie terminer la saison. Une petite saison de 40 matchs, je pense, qu'il y avait eu cette année-là. Et puis, 2013-2014 jusqu'en 2015, il a été dans la Ligue américaine pour revenir une dernière saison, en fait, en Allemagne pour, je vais essayer de bien dire, mais là, Erzbaren à Berlin.
Ouais, bien dit, bien dit. On fait
pas mal à ça. Et puis, ceux qui se demandent, je vais essayer de le bien dire encore une fois, mais son autre équipe en Allemagne, c'était le Hellbronner Falken dans la division 2. En tout cas, je pense que je le massacre, mais bref, c'était une équipe allemande.
Non, c'était bon.
Tant mieux. Et puis aujourd'hui, c'est Bruno Gervais, comme je vous disais, est membre de l'équipe d'RDS, un analyste qui est depuis quelques saisons déjà en onde et fier papa de 3 enfants également, donc un homme bien occupé. Et puis, c'est vraiment un honneur pour moi de te recevoir au podcast, Bruno. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Et ça fait plaisir de te rencontrer, Antoine, et de voir ça, le podcast Made in Québec. Je pense avec tout ce qui se passe, c'est le fun de voir, entre autres, les produits québécois, mais toutes sortes de produits, et t'en es un produit québécois, et de démontrer tout ce qu'il y a ici au Québec, d'être prêt de tout ça. C'est le fun. C'est le fun de voir tout ce qui se passe malgré la situation.
Oui, c'est exact. Il faut te dire, il y a bien des belles histoires qui arrivent malgré la pandémie. C'est ça que je veux mettre en valeur. C'est qu'il y a tellement de parcours inspirants qu'on a au Québec, que ce soit moi avec le podcast ou des invités que je reçois. C'est tellement, je trouve, on devrait mettre en valeur plus les bonnes choses qui arrivent actuellement à travers la pandémie parce que oui, il y a beaucoup de mauvaises choses, on peut les énumérer. Mais tu sais, il y a tellement de belles créations qui arrivent, des gens qui ont des bonnes idées pour innover, que ce soit avec leur entreprise, qu'on voit des histoires que hey, on n'avait jamais pensé à ça avant. Puis c'est vraiment ça, en fait, le but du podcast, c'est de mettre en valeur des parcours qui sont inspirants à l'heure actuelle, mais aussi des choses qui sont arrivées dans les dernières années pour inspirer les gens en ce moment, peut-être à eux aussi réaliser leurs rêves, réaliser leurs objectifs qui se sont donnés dans leur carrière. Et puis, je me dis, si le podcast peut avoir des inspirations pour ces gens-là, bien, tant mieux, ça va avoir été mission accomplie. Puis, du Made in Québec, ça va autant dans le produit que dans le parcours Made in Québec comme le tien. Tu as été conçu ici aussi.
est-ce que tu as commencé tout ça avec la pandémie ou c'était quelque chose que tu avais déjà en tête?
Ça fait 2 mois. Ça fait deux mois, en fait, qu'il y a le podcast. Je suis déjà rendu à 23 épisodes en 2 mois. Là. Disons que ça roule 3 à 5 par semaine d'un fois. Là. C'est de la job, mais oui, j'ai parti de ça de rien, en fait. L'idée m'était venue en décembre, avant la pandémie. C'est un projet que je m'étais donné en tête parce que je faisais déjà des conférences scolaires et puis je suis photographe sportif, dans le fond, professionnel dans ma vie normale. Et puis, j'avais des contacts, tout ça. Je m'étais dit, j'aimerais recevoir, jaser avec eux. Tu sais, je suis photographe pour l'Armada de Mainville-Boisbriand. Puis, tu sais, je me dis, il y a des joueurs là-dedans, j'aimerais ça jaser, mais en tant que photographe, je n'ai pas l'occasion de le faire. Puis, je trouvais que le podcast, en tant que fan de podcast, je trouvais que ça pouvait donner une belle façon de faire découvrir des parcours, des personnalités. Tu sais, tu as le temps de jaser avec une personne, puis tu sais, t'entres dans le creux vraiment des détails. Et puis là, ça m'était resté en tête. Puis là, ben, j'avais pas le temps avec tout ce qui se passait dans ma vie. Et là, on arrive avec la pandémie, puis là, tout est arrêté. Je perds tous mes contrats de photos, conférences, plus rien. Et là, ben, j'ai pris un bon 2 semaines de réflexion sur qu'est-ce que je fais. Puis là, ben, l'idée du podcast m'est revenue. Je me suis dit, faut que je le fasse. Là. J'ai juste ça à faire en ce moment. Il y a tellement de gens qui méritent d'être inspirés en ce moment à l'heure actuelle. Je pense qu'il faut que je le sorte. Fait que là, je me suis mis à penser à mon concept. Et puis, je me suis dit, c'est tellement important d'encourager Made in Québec en ce moment. L'idée de base était de recevoir, oui, des entrepreneurs, mais j'avais tellement envie de juste apprendre des parcours inspirants. Moi, j'avais besoin d'être inspiré. Je cherchais des podcasts, des choses comme ça. Puis, je me suis dit, bien, au lieu de le chercher, je vais le créer. Fait que je vais faire un podcast pour savoir des parcours comme le tien qui sont super inspirants. Puis, on va jaser de sujets qui sont le fun, pas des sujets down, plate ou quoi que ce soit. Je voulais jaser, oui, de sport, mais de n'importe quoi d'autre. J'ai reçu des artistes, des entrepreneurs, n'importe quoi. C'était vraiment dans le but d'inspirer les gens. Et puis, jusqu'à l'heure actuelle, je suis très satisfait du résultat.
Ah, bien, good. Mais tant mieux, c'est le fun à voir, puis vraiment content de pouvoir participer à ça.
Écoute, tant mieux, merci beaucoup à toi. Et puis oui, dans le fond, c'est ça, on va jaser de ta carrière dans la première partie du podcast, parce que c'est une belle longue carrière et beaucoup de sujets à jaser. Mais dans la deuxième partie, on va s'attarder à Bob Bissonnette, qui était un de tes bons amis, comme je disais. Puis c'est une semaine spéciale, Bob, fait qu'on va voir de la musique de Bob dans ton intro, à travers le podcast également, dans le montage, fait que les gens vont pouvoir revivre un peu les bons moments de la carrière de Bob Bissonnette à travers la tienne également, donc ça va être un bel épisode, j'en doute pas.
Ah ben, tant mieux, je suis content. En plus, de pouvoir parler de Bob, là, c'est toujours un plaisir de continuer à parler de la légende.
Oui, la légende, c'est bon de le dire de même. La rockstar, la légende, on a tellement de choses, de synonymes de Bob. Écoute, il a marqué l'imaginaire des Québécois et surtout des gens de région Québec. On vous salue, ça a été encore à l'heure actuelle. Il n'y a personne qui ne connaît pas Bob à Québec. C'est vraiment dommage que ce n'est pas le cas à Montréal. Là, mais en tout cas, on en reviendra tantôt là-dessus. C'est une belle histoire, Bob Bissonnette. Oui, donc... pour. On parlait de ta carrière tantôt, tes 13 belles saisons dans la Ligue nationale de hockey. En faisant des recherches sur ta carrière, Bruno, j'ai tombé sur un article que tu racontais lorsque tu as pris ta retraite en 2017, je crois bien. Tu parlais dans le fond de que tu pensais déjà prendre ta retraite à l'âge de 23 ans. Écoute, là, t'es pas mal plus vieux que 23 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé que tu as décidé de poursuivre ta carrière? Puis pourquoi penser à prendre sa retraite à cet âge-là? Explique-nous ça.
Et j'avais des problèmes aux genoux et c'est de là que ça a commencé. J'ai eu une opération tôt. Au camp de sélection d'équipe Canada Junior, juste avant qu'on quitte pour la Finlande, le tournoi est en Finlande cette année-là. C'était l'année du lancer de Marc-André Fleury contre les Américains en finale. Mais cette année-là, j'étais au camp et juste avant de quitter, je me suis blessé, je me suis déchiré le ligament croisé antérieur. Ça l'a mis fin à ma carrière junior, dans le fond. Mais l'année suivante, c'était le lockout dans la Ligue nationale. Donc, je me suis présenté dans la Ligue américaine. J'avais eu cette demi-saison de hockey plus tout l'été pour une remise en forme. Mais quand même, c'était un grand saut. Cette année-là, ça l'a bien été. Mais vers la fin de la saison et le début de la saison suivante, j'ai commencé à avoir des problèmes au genou. Et même que c'était dans l'autre genou, c'était... banal, mais c'est comme si je perdais la force de ma jambe. Je perdais ma jambe pour une fraction de seconde. Mais ça me faisait perdre l'équilibre, ça me faisait tomber dans les entraînements, puis commence à poser des questions. Ça arrivait de temps en temps. C'était rare au début, mais je pouvais sauter sur la patinoire, mais si je sautais avec ma jambe gauche en premier, bien, ma jambe flanchait, puis je me retrouvais en plein ventre. Fait qu'un gars qui tombe professionnel, qui se lance en plein ventre quand il sort du banc, t'as l'air fou.
J'ai commencé
à faire des examens, voir des médecins, voir des spécialistes. Puis il n'y a personne qui est capable de mettre le doigt sur le bobo. Et pendant ce temps-là, la fréquence augmentait à un point tel que c'est venu complètement chambarder mon entraînement. Je ne pouvais pas embarquer d'une certaine jambe sur la patinoire. Fait que j'embarquais, je me lançais avec mes deux patins doucement. Puis une fois que je chantais que j'étais sous contrôle, là, je patinais. Mais il y a certaines situations où tu te dois de sprinter en embarquant sur la glace. Fait que là, ça, mettons que ça l'exposait par moment. Puis cet été-là, à 23 ans, je vivais avec Max Talbot. Tu parlais de Max et Bruno, mon grand chum à ce moment-là. Et plus l'entraînement avançait, moins d'exercices je pouvais faire. Puis là, les loads, les charges sur les squats, exemple. Il commençait à être pesant, on commençait à travailler en puissance, en force, mais ma jambe me flanchait. Quand ma jambe me flanchait, quand tu as quelques 100 livres sur les épaules, bien, ça pouvait être très dangereux. Fait qu'on s'est mis à arrêter ça, on s'est mis à essayer de retourner à la base. Courir, c'était difficile et n'importe quoi, j'avais peur de tomber. Et je me suis rendu à un point où mes décisions à tous les jours étaient prises selon le nombre de marches que j'allais monter. C'était
assez important.
À 23 ans, exact. Que j'avais un contrat avec les Islanders, mais cet été-là, à peu près à la mi-juin, j'ai complètement arrêté de m'entraîner. Et ça faisait plusieurs, parce qu'il y a eu une série de tests. Là. C'est un an et demi de spécialistes de ci, de ça, jusqu'à un point où je me fasse rencontrer par un médecin à New York qui est très connu pour toutes sortes de raisons. Là. Mais son discours était c'est peut-être juste dans ta tête. Puis comme athlète, quand tu entends ça, bien là, je me suis fermé la trappe. J'ai dit là, je vais arrêter de faire des vagues, je vais essayer de passer à travers. Fait que quand j'ai arrêté le 15 juin, j'avais plus de ressources. T'sais, j'avais plus de on va mettre le doigt sur le bobo, on va régler ça, on va régler les choses, loin de là. Donc, ça a été ce qui s'est passé. J'ai commencé à écrire mon discours de retraite. J'ai commencé à dire je vois pas de fin. Mais j'étais avec Pierre Allard, qui m'a entouré d'une équipe. Hugo Santomo, Serge Savoie, puis c'est leur croyance, c'est leur acharnement qui m'a motivé. Puis je dis, OK, gars, parce qu'à ce moment-là, j'étais à terre. Puis ils disaient, on va y aller une étape à la fois, puis tu vas voir, on va rebâtir quelque chose. Puis ils ont été capables de me reprendre, puis de m'amener juste assez pour me rendre au camp de sélection des Islanders. J'étais loin d'être dans la meilleure des formes, mais j'étais juste assez pour pouvoir jouer au hockey et de continuer à travailler dans la bonne direction. Puis ça l'a beaucoup aidé. Et ensuite de ça, l'année suivante, j'étais avec le Lightning de Tampa Bay. C'est Marc Lambert qui m'a dit, qui est venu m'aider beaucoup, beaucoup, qui a continué à travailler dans cette direction-là. Un autre Québécois. Puis ça a été génial. Et de là, j'ai recommencé.
J'imagine que tu avais une certaine crainte de ne pas retrouver le même niveau aussi. Tu sais que tu sais un certain standard d'excellence que tu sais que tu es capable d'offrir. Puis là, ton genou t'empêche aussi de vivre ce niveau-là. Puis est-ce que tu avais peur mentalement, même si tu sais, regarde, mon genou, il est correct, il me fait pas mal. Est-ce que tu avais une certaine crainte en entrant quand tu mettais tes deux pieds justement sur la glace que, oups, là, ça va-tu lâcher ou, tu sais, je vais peut-être faire attention. Ça t'a-tu resté dans la tête?
Bien, beaucoup, ça a été long, surtout qu'au début, c'était mieux, mais en période de fatigue, ça revenait beaucoup. Donc, il fallait que je contrôle, fallait que je fasse attention. Et j'avais beaucoup de crainte pour ce qui était tout ce qui était contact. Si ça flanche au mauvais moment, ça peut faire très mal puis avoir une grosse blessure de là. Et l'autre aspect, c'est que ça faisait partie de mon jeu beaucoup. J'ai eu du succès junior où j'ai été repêché puis j'ai fait l'équipe. Mon premier camp de sélection avec les Islanders parce que j'étais un patineur. J'étais pas le plus rapide en ligne droite de sprint. Très mobile. Mais c'est ça, c'était ma mobilité. Et le fait que je pouvais patiner pendant des jours, j'avais un cardio où ma même mobilité ou mon même rythme, en première période ou en troisième période, même que je jouais 25-30 minutes, il n'y avait pas de problème. J'étais capable de maintenir ça. C'était une de mes forces, le cardio et cette mobilité-là. Donc, quand j'ai perdu, avec ma première blessure, j'ai perdu beaucoup de mobilité. Et là, avec le genou qui était là, c'était loin d'être la même chose. C'était un aspect de mon jeu, ma force, qu'on m'enlevait. Et là, c'était, à partir de là, c'était assez de se réinventer. J'ai enlevé ma visière. Je pense que j'ai deux combats juniors. Là, j'ai été rendu à la nationale. Là, j'ai enlevé ma visière pour, je disais, peut-être que je vais amener cet élément-là, essayer de me battre pour garder une place dans l'alignement. Je voyais qu'à la défense à New York, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui se battaient. Est-ce que je peux essayer d'amener ça? C'était loin d'être une bonne idée. Mais je cherchais des façons.
Tu n'étais pas reconnu pour ta robustesse, ceux qui le savent. C'était plus ton jeu défensif.
Exact. Ça a été d'essayer de me réinventer. Puis à partir de 23 ans, je suis tombé en mode survie. Pour continuer à avoir un impact. Tu vois, j'ai été capable d'ajouter quelques saisons dans la Ligue nationale jusqu'à 29 ans et ensuite jusqu'à 33 ans au niveau professionnel. Mais c'était la survie.
Oui, exactement. Puis, tu sais, il y a quand même eu quelques coups durs que tu as traversés dans ta carrière. Surtout quand on pense au lockout, tu en as vécu quand même deux. Ton premier, je pense, c'était à ta première saison dans la Ligue, deuxième saison dans la Ligue américaine, si je ne me trompe pas.
La première en arrivant.
OK, c'est ça. Fait que c'est vraiment quand tu es arrivé dans la Ligue nationale, bang, le lockout commence 2004-2005. Ouais. Puis là, tu te retrouves que, ben, dans un sens, il fallait que tu fasses ton stage dans la Ligue américaine. Fait que pour toi, ça n'a pas changé grand-chose. Mais
ça l'a aidé normalement. Parce que je revenais de ma blessure au genou, mais qu'il n'y avait pas de camp dans la Ligue nationale, il n'y avait pas de déception de ne pas faire l'équipe. Il y avait beaucoup de crainte de mon côté. C'est les Islanders qui s'étaient occupés de mon opération, de ma réhabilitation beaucoup. Et ensuite de ça, je me présente, puis là, tout le monde s'en allait dans la Ligue américaine, mais la qualité, le calibre de jeu de la Ligue
américaine. Le calibre n'a jamais été aussi élevé. Là.
Fou, on jouait contre Binghamton. C'était les Jason Spezza, les Volchenkov, les Chris Neal, Brent McGratton. Wow. Tu avais Patrice Bergeron avec les Bruins de Providence. La qualité des joueurs était exceptionnelle.
Incroyable.
Ça, c'était le fun. Et c'était... Il n'y avait pas de Ligue nationale cette année-là. Et tout le monde était en développement de leurs jeunes. Donc, moi et Chris Campoli, on est arrivés là, pour nommer que ceux-là. On était deux partenaires. On jouait ensemble, beaucoup, beaucoup de temps en glace. Puis c'était vraiment de développer les jeunes cette année-là et avec du grand talent partout. Ça a été une super belle expérience.
Hey, tu me fais penser à ça. T'as-tu joué avec Patrice Bergeron de ton temps avec le Titan, toi?
Oui, on a joué ensemble. Ma deuxième saison, dans le fond, Patrice était là à son année recrue. On a été repêchés au même repêchage.
Oui, c'est ça. Puis est-ce que ça t'a surpris? Parce que, tu sais, on entendait moins parler à l'époque de Patrice Bergeron. Je pense que personne qui s'attendait à ce qu'il connaisse la carrière qu'on connaît aujourd'hui, qu'il a eu, là, puis qui joue encore d'ailleurs à l'heure actuelle. Là, puis un des meilleurs centres défensifs, offensifs de la Ligue nationale, le plus complet peut-être. Est-ce que à ce moment-là, toi, tu le voyais déjà en lui dire, OK, il y a de quoi de spécial ce joueur-là, ou c'est vraiment sa progression qui a été incroyable?
Mais c'est une progression de fou. Il a été 5 années de suite à être une recrue dans une nouvelle ligue, dans une nouvelle place.
Hey, c'est incroyable.
Il y a eu une progression. Il était très bon. Tu vois, on allait jouer à Québec. Ma première année junior, on allait jouer à Québec. Et quand Patrice a donné, c'est arrivé à quelques occasions, qu'il est venu jouer avec nous l'année qu'il était midget 3. Il faisait très bien. C'était sa tête. C'était son intelligence au jeu. Il y avait une des facettes de son année recrue que Réal Paiement mentionnait beaucoup, c'est qu'il des fois, il se plaçait dans des positions vulnérables dues à son plus petit gabarit à ce moment-là. Mais la façon qu'il voyait le jeu, la façon qu'il comprenait le jeu, il compensait beaucoup, beaucoup, peut-être pour la lacune qu'il avait physiquement. Mais c'était un excellent joueur. Et l'année de son repêchage, il aurait été repêché. Juste avant d'aller au camp, il est venu au camp à Batters en préparation. Et quand il est venu au camp à Batters, c'était un homme parmi des enfants. Mais il avait grandi, il avait atteint une maturité physique aussi, qui est juste normal. Il y a certains gars qui grandissent juste un peu plus tard, qui se développent plus tardivement. Mais il avait pris un bon 10-15 livres, un 2 pouces dans cet été-là. Et... il est arrivé en forme et il dominait, ça en était plate au camp junior. Et là, il est parti à Boston. Cette espèce de boost-là physique, d'avoir une certaine maturité physique, lui a permis de continuer à jouer très intelligemment, mais d'être capable de se protéger, puis d'être capable, quand il est rentré sa première saison dans la Ligue nationale, c'était un autre style de jeu. C'était avant le lockout 2004-2005. Mm-hmm. Donc, il devait se défendre de situations pas mal plus physiques qu'ils peuvent l'être aujourd'hui. Puis, il le faisait très bien, mais la façon qu'il pense, et il fait tout de la bonne façon. Fait, peu importe tu es qui, tu veux montrer à un joueur de centre comment jouer au hockey, tu mets un match du numéro 37, tu dis, mets tes yeux sur lui, regarde-le, il fait tous les détails de la bonne façon.
La façon qu'il back, la façon qu'il couvre ses gars, la façon qu'il gagne ses face-off, c'est offensivement une vision de jeu. C'est vraiment un joueur très, très, très complet. J'ai une petite pensée pour... écoute, si je ne me trompe pas, je pense que le Canadien de Montréal avait sélectionné un ou deux rangs avant de prendre Patrice Bergeron. Puis il y a un certain Corey Urquhart, je pense, qui avait été pris à sa place.
Ça se peut.
Si j'ai une bonne mémoire, parce que ce gars-là n'aura jamais rien fait d'autre qu'à part jouer dans la Ligue américaine, puis peut-être 2-3 ans, on n'a plus entendu parler. C'était un peu difficile d'essayer juste d'imaginer d'avoir Patrice Bergeron avec le Canadien de Montréal. Ça aurait grandement changé le visage de l'organisation encore à l'heure actuelle, mais comme on le sait, le repêchage reste une science inexacte. Là, on ne peut pas le savoir, c'est facile à dire par après.
oui, c'est facile. C'est un jeu plaisant de refaire les repêchages, mais sur le moment... non, c'est presque impossible à faire.
C'est sûr, mais en même temps, tu sais, on repense, tout a été quand même dans le repêchage 2003. Sincèrement, je pense que c'est le meilleur repêchage que j'ai vu de ma vie. Là. C'était
complètement
incroyable.
D'accord.
La première ronde, là, on pense à des Zach Parise, Jeff Carter, Ryan Getzlaff, André Costin, désolé, mais c'est on l'a repêché avant tous les autres. Dustin Brown, Corey Perry, écoute, j'en passe. Là. Il y en a tellement eu des joueurs étoiles. Je pense même Marc-André Fleury, c'était cette année-là, là, dans les premiers.
Je pense que c'était son draft, première ronde.
Oui, ben, il était premier, en fait. Je pense que c'était
first overall.
Et c'est quelque chose quand même, comme draft, là, c'était unique. Eric Staal aussi, il ne faut pas oublier. C'est vraiment...
C'est un gros repêchage, mais c'est venu avec la qualité de ce repêchage-là. Et en plus, tu as eu certains joueurs qui ont craqué l'alignement tout de suite, mais il y a eu le lockout. Et après ça, ces joueurs-là se sont installés dans une ligue nationale qui avait beaucoup d'équipes qui étaient en train de se métamorphoser.
Ouais.
Et avant, tu étais un vétéran dans la Ligue nationale parce que tu étais un vétéran. Ça faisait 10 ans que tu jouais là, tu trouvais un job, tu avais une augmentation de salaire. Puis c'était beaucoup plus comme ça où les gars gardaient leur job. Et là, c'est venu à un niveau avec ce lockout-là, avec ce qui allait se passer, la façon que les équipes devaient être bâties maintenant changeait. Et là, tu as vu des équipes embarquer à emboîter le pas rapidement. Et tu as vu des jeunes capitaines. C'est là que tu as commencé à voir ces joueurs-là, les jeunes joueurs avoir un impact, les jeunes joueurs avoir un gros rôle, un peu plus de jeunes qui rentrent dans l'équipe, des capitaines très jeunes aussi. C'est là que ça a commencé, cette vague-là, qui a continué avec les années qui ont suivi. Mais ça a été lancé ça. Il y a beaucoup de ces joueurs-là que tu retrouves dans le repêchage de 2003.
Ah, c'est fou.
Le nombre de joueurs qui vont atteindre les 1000 matchs, le nombre de joueurs qui vont être au temple de la renommée, l'impact que ces joueurs-là ont eu sur des organisations, c'est remarquable de ce repêchage-là.
Ah oui, puis tu sais, c'est justement, ça l'a peut-être pas aidé pour, tu sais, il y a des gens qui disent pourquoi que Patrice Bergeron a été aussi drafté aussi loin, là. On pense à deuxième ronde, quand même mi-deuxième ronde, c'est pour un gars de ce calibre-là, devrait être top 10 n'importe quel draft, mais tu sais, il y en a tout le temps, là, on pense à des Henrik Zetterberg qui ont été repêchés à la fin, Luc Robitaille, whatever, tu sais, il y en a tellement des joueurs qui ont connu des grandes carrières, mais je pense que ça a pas aidé. Dans une année normale, il aurait été repêché en première ronde, mais avec des aussi... Écoute, des superstars comme ça en première ronde, ça n'a pas eu le choix de décaler peut-être certains joueurs comme lui, comme toi, qui t'aurais peut-être été plus tôt aussi. Tu sais. C'est sûr que ça n'a pas aidé parce que vous étiez dans une année incroyable.
Et surtout que Patrice, un, il évoluait à batters. Fait que
ouais.
Souvent, les dépisteurs vont le voir à quelques matchs sur la route. Et quand tu viens le voir à Québec, bien, des fois, l'équipe a joué la veille à Drummondville. Arrive, les conditions ne sont pas les mêmes. Puis Patrice n'était pas un joueur de gros flash. Il n'était pas un joueur qui prenait la rondelle puis prenait le contrôle de tout. C'était le gars tout le temps bien placé, faisait le bon jeu offensivement, défensivement, amassait ses points. Il était sur l'avantage numérique avec son intelligence. Il jouait bien les avantages numériques. Il a eu une très, très bonne saison au niveau junior, mais c'était pas des flashs. Il pouvait sortir d'un match qu'il avait bien joué, mais c'est quand tu te penchais sur son jeu que là, tu réalisais « Wow, OK, tout ce qu'il fait, puis c'est pour ça qu'on a sorti de la zone, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu un revirement là, c'est pour ça qu'il a eu une chance de marquer ici. » Il faisait de très bonnes choses.
Ah, effectivement. Puis ceux qui ont la chance de revoir des flashs sur YouTube, je pense que c'était le World Junior, la Coupe... championnat mondial junior de 2004, quand il y a eu le lockout, justement. Là, on se retrouve avec des Crosby, Perry Getzlaff et Patrice Bergeron qui étaient sur la première ligne avec Crosby.
Ah oui.
Moi, c'est vraiment là que je l'ai connu, je l'ai découvert. J'ai dit, OK, mais quel joueur! Puis c'était fou, la chimie qu'il y avait avec Crosby était incroyable. C'est encore à l'heure actuelle le plus beau tournoi qu'on a vu de hockey junior, mais certainement boosté avec le lockout.
Ah, c'est ça, ça l'aide beaucoup, mais cette édition-là, le tournoi, c'est le tournoi 2005. Mais Patrice avait gagné le championnat du monde senior l'année précédente. Fait que je ne sais pas si ça arrivait souvent, je ne sais pas si c'était le premier, mais de gagner le tournoi championnat du monde senior avant de gagner celui junior,
c'est spécial,
ça démontrait à quel point il a monté les échelons tellement rapidement, puis tout déroulait pour lui. Mais tu as raison que cette chimie-là, et ça démontre à quel point la tête de hockey que Patrice est, parce que c'est pas tout le monde. Regarde année après année le nombre de joueurs, d'alliés, qui ont été mis autour de Sidney Crosby. C'est un excellent joueur, Sidney, mais il y a une façon de jouer, puis c'est pas tout le monde qui peut embarquer dans cette façon-là rapide. Patrice s'est ajusté, mais il est capable de s'ajuster à un Brad Marchand, il est capable de s'ajuster à des joueurs de talent autour de lui. Puis c'est ce qu'il a fait avec Sidney Crosby. Mais dans ce tournoi-là, Patrice était à 3 contre 5, c'était lui. Il a marqué souvent des avantages numériques. Et c'est ça, exactement partout. Ça démontrait là, à quel point il était complet.
Ah oui, puis j'ai une pensée pour Pascal Dupuis, qui était un des seuls, je pense, qui a réussi à avoir une belle longue carrière avec Sidney Crosby. Il y en a certains autres, là, quand on pense à l'heure actuelle, à Connor Sherry ou Rust ou quoi que ce soit. Ça reste des gars qui ont une certaine chimie, mais le meilleur, je pense que ça a été Pascal Dupuis, qui a carrément développé une deuxième phase à sa carrière, qui était tranquillement sur, pas le déclin, mais qui était stable. Puis là, ça a carrément explosé avec Crosby. Puis c'était pas de ses problèmes de caillot-sein. Il serait peut-être encore sur sa ligne à l'heure actuelle.
Exact.
oui, revenons à nos moutons, à toi, c'est-à-dire, écoute, là, tu as connu quand même une belle longue carrière avec les Islanders. Qu'est-ce qui a fait qu'en 2011, là, c'est hors de ton contrôle, là, mais ton passage au Lightning de Tampa Bay, est-ce que ça a été une certaine déception pour toi de quitter New York? Tu avais quand même une vie là-bas avec beaucoup d'amis, de connaissances. Là, tu te retrouves dans un nouveau marché qui est Tampa Bay. Parle-nous un peu de la transition entre les deux villes.
Oui, ça a été un gros choc, mais je le voyais venir. Ça a été difficile parce que j'ai tout le temps été du genre, quand j'arrive en quelque part, je m'implique beaucoup. J'étais très impliqué dans la communauté, au-delà des activités d'équipe. J'avais beaucoup d'amis en dehors de la patinoire. J'étais en charge de tout ce qui était activité d'équipe pour la Islanders, les parties d'équipe. C'était le genre de choses que je m'implique beaucoup, puis d'aller au mariage des gars, de développer des relations. Fait que dans ma tête, j'allais finir avec les Islanders, c'était sûr au début. Mais je le voyais. Puis je trippais, j'aimais beaucoup la ville, les gens là-bas. Et je le voyais venir parce que là, mon contrat se terminait. Puis avec tout ce qui s'était passé au niveau du genou, j'étais même pas proche du joueur que je savais que je pouvais être. Mais c'est là que tu vois qu'il va y avoir un changement, une équipe qui veut faire les séries. Là, j'étais tombé dans ceux. Que tu brasses un peu la soupe pour améliorer ton équipe. Quand j'étais arrivé là au début, quand c'était Ted Nolan, les choses allaient super bien, les choses progressaient bien. Je faisais partie du noyau pour développer. Puis avec la façon que je jouais, avec où j'étais rendu, j'étais débarqué de ce noyau-là. Puis c'était comprenable, j'étais pas proche du joueur que je pouvais être. C'était frustrant. Quand je me rappelle du dernier party d'équipe qu'on a eu, puis je savais que c'était des au revoir, ça a été très, très, très difficile. Une peine d'amour, dans le fond, de tout l'investissement que j'avais mis dans, à longue et à l'une, partout dans l'organisation, dans la communauté, et qui se termine comme ça. Ça a été difficile, mais là, cette transaction-là, avec tout ce qui se passait, j'essayais de me replacer, a été une bonne chose. Et c'est Julien Brisebois qui était bien content, avec qui j'ai parlé au début, qui était derrière un peu ça, venir me chercher. Et de recommencer à Tampa Bay, mais de rencontrer Marc Lambert, ça l'a beaucoup aidé. Guy Boucher qui était là, Daniel Lacroix, Martin Raymond, personnel exceptionnel. J'ai adoré mon année, mais je savais que l'étiquette sur mon nom avait changé. Mais c'était à moi de continuer à pousser très fort. Et j'ai vraiment apprécié mon année à Tampa Bay. Donc, ça l'a mis un peu de bombe sur la plaie de ce que je venais de vivre.
Oui, exactement. Puis ça reste que tu étais dans un très bon club aussi avec la Lightning, qui n'était pas le club qu'on connaît aujourd'hui quand même. C'était les débuts peut-être de toute cette belle épopée-là avec Stamkos, tout ça qui arrivait, je pense, cette année-là. Edmund, l'année de 2-3 ans après, je pense, qui est arrivé. Ou c'était pas
encore, Edmund était là cette année-là. Edmund était là. C'était sa première ou deuxième saison. Deuxième saison. Stamkos, c'est les deux seuls qui restent de cette année-là. C'est Edmund
Kucherov n'était pas là encore, c'était en 2013-2014, je pense qu'il était.
C'est tous des gars qui côtoyaient, les gars comme des mineurs, qu'on les avait vus au camp de sélection. Ouais. L'été, je m'entraînais avec Marc Lambert puis la gang, il y a plusieurs joueurs du Lightning qui étaient descendus, mais c'était l'arrivée des Killorn, des Johnson, des Palat, ces gars-là étaient dans l'entourage des mineurs, exact. Cette année-là, si je ne me trompe pas, c'est Norfolk à l'époque. John Cooper, les Johnson, les Palat et tout, qui avaient gagné la Coupe Calder. Ouais. Donc, c'était une excellente équipe au niveau du club école.
Ça part de là.
Puis, exact. Fait que ça a commencé là. Puis là, tu vois, après ça, ça a été la vague de changement. Et Steve Yzerman, c'était sa mission. Il avait entamé cette saison-là. Puis, il était en mode reconstruire par le repêchage, par les jeunes. Et c'est ce qu'il a fait.
C'était-tu la saison de Guy Boucher, je pense, que qui était coach dans ce temps-là?
Ben, Guy Boucher était, oui, il avait été là l'année d'avant, quand ils s'étaient rendus en finale de conférence. Il avait été là cette saison-là, puis je pense que c'est la saison suivante, pendant la saison, qui a été remercié.
Oui, c'est ça, OK. Fait que dans le fond, toi, c'était Guy Boucher qui t'avait entraîné, dans le fond, durant ton temps.
C'est Guy Boucher qui était mon coach.
OK, parfait. Puis est-ce que on sait qu'on connaît son caractère bouillant, mais également aussi son système défensif. C'était-tu dans cette année-là, d'ailleurs, qu'il avait fait le fameux match contre les Flyers?
Oui.
Ça avait resté stable pendant, je pense, 2 minutes. Personne ne bougeait sur la glace.
Oui, j'étais de ce match-là. Ah, j'en ai fait une des présences. Je suis sur la glace aussi. Puis c'était drôle spécial. D'entendre. C'était spécial parce que tu entendais Daniel Brière crier après Martin: vas-y, vas-y, va chercher. Martin dit non, viens-t'en.
Aïe, aïe, ok.
C'était drôle de voir, mais ça a été un gros débat parce qu'à ce moment-là, Max Talbot était avec les Flyers. Moi, j'étais avec les Kings. Et encore à ce jour, on a le débat de qui a eu l'air cave et qui a eu raison. Je suis encore persuadé que c'est Guy Boucher parce que. Si on regarde aujourd'hui, puis là, c'est plus le cas, là, mais Peter Laviolette a utilisé le 1-3-1 longtemps après cette saison-là. Il l'a fait beaucoup avec Nashville. C'est sûr que c'est ajusté, c'est différent. Mais les Flyers étaient une puissance offensive. Nous, on avait une saison un peu plus difficile, coussi-coussi offensivement. On s'est rabattu sur bien jouer défensivement. La rondelle reste dans leur territoire pendant de longues secondes. Plus le match est serré, plus on se rend vers la fin. Plus on avait des chances de gagner pour nous et on l'a gagné ce match-là. Fait qu'à vous de juger qui a eu l'air cave à la fin de la journée, mais ça a été quelque chose de particulier. Wow. J'ai adoré Guy Boucher, Martin Raymond et Daniel Lacroix. Ouais. J'ai aimé beaucoup de Guy Boucher, c'était le premier entraîneur. J'adore les entraîneurs très structurés. J'en avais un au niveau junior, Réal Paiement, que c'était phénoménal ce que tu peux faire avec une équipe qui est structurée, qui est sur la même page quand tu réussis à passer ton message. Guy Boucher avait ça, mais Guy Boucher avait un élément de plus. Il était très vers le côté humain. Il ne dealait pas juste avec des joueurs de hockey, des systèmes de jeu. Il dealait avec des êtres humains et allait chercher le meilleur de ça. Et je pourrais te faire des histoires sur lui, mais il y a un match, et à ce moment-là, quand j'arrivais avec le Lightning, j'étais un joueur qui avait été amené pour de la profondeur. J'étais à me battre pour ma position. Je n'ai pas joué tous les matchs. Il y a quelques matchs que j'étais laissé de côté. Ça faisait partie du défi de cette année-là, mais il y a un match. Après un match, il quitte, puis il part de la salle des entraîneurs, puis il s'en vient dans la salle pour les femmes. Il vient voir ma fiancée à ce moment-là pour lui parler de ce qui se passait. Puis il n'y avait pas besoin de faire ça. Il n'y a pas un entraîneur qui fait ça, mais il est venu voir ma fiancée pendant que moi je m'entraînais, puis je changeais. Il dit, je veux juste que tu te laisses savoir que l'exemple d'éthique de travail, tout ce que Bruno fait présentement, il fait tout ce qu'il a à faire. Et c'est exceptionnel ce qu'il fait. On l'apprécie énormément. C'est la situation. Il avait même expliqué un peu, gars, c'est un style d'équipe comme ça. Les faces à Bruno, c'est ça. Demain, on joue contre eux. Il va jouer. Il avait expliqué des choses. Enfin, il n'y a jamais personne qui a pris le temps de faire ça. C'était des détails comme ça qui fait que l'être humain, l'environnement, tout ce qu'il reste, était exceptionnel. Puis c'est des choses que tu apprécies beaucoup. Fait que oui, c'est plate. Il y a bien des situations pour des joueurs que ça peut être frustrant au niveau de temps de glace, laisser de côté, être coupé, redescendu. Mais Guy faisait ces détails-là pour aller chercher le meilleur de chaque individu, chaque être humain.
Ah oui, puis écoute, c'est vraiment une très belle anecdote que tu nous racontes là, parce que c'est ça, souvent le côté humain, on l'oublie d'un athlète professionnel ou d'un joueur de hockey professionnel dans la Ligue nationale. C'est tellement important de oups, excuse-moi, j'ai comme un invité surprise.
Toi aussi? C'est quoi son nom?
Tigrou. Tigrou? Ouais, ben c'est pas moi qui l'ai baptisé de même, mais c'est son nom. Fait que oui, c'est ça. Fait qu'on pense souvent, on oublie le côté, je peux dire, personnel. Tu sais, quand même, vous avez des émotions, même si vous gagnez des millions, tu sais, que c'est quand même c'est des bons salaires, mais ça vient quand même que vous êtes des humains. Tu sais, que vous avez besoin de vous faire rassurer, que ça se peut que ça soit tough des jours d'être laissé de côté, de retourner dans la Ligue américaine, le mental, le moral, tout ça, c'est pas évident. Puis, tu sais, de voir un coach qui prend ça pour que c'est important pour lui, qui prend le temps d'aller parler avec ta fiancée, je pense que c'est tout à l'honneur de Guy Boucher. Puis, tu sais, ce qui a fait qu'encore à l'heure actuelle, il est apprécié de certains de ses anciens joueurs. Puis, c'est sûr que nous, à l'extérieur du vestiaire, ce qu'on voit, c'est un homme qui a l'air très dur avec ses joueurs. Ça a l'air d'être quelqu'un qui est très émotif aussi sur un banc, crie beaucoup. Tu sais, ça peut faire peur un peu quand tu es un joueur de hockey aussi. Tu te dis, oh, il va me coacher, comment il va être? Mais de ce que je comprends, il a l'air d'être un player's coach aussi.
Ben, beaucoup. Puis c'est un intense, c'est un passionné. Joël Bouchard est un excellent exemple. Ah oui. On dirait tout le temps qu'il est fâché, on dirait tout le temps qu'il est engueulé, qu'il est en train d'engueuler son joueur, mais il est en train de dire des bons commentaires. Et quand tu challenges tes joueurs, quand tu mets tes joueurs au défi, tu veux les pousser loin, puis t'amènes la même passion quand il réussit. C'est pas de pousser un gars, puis quand il réussit, tu dis pas rien, tu t'en vas. C'est que t'es content, puis de ces entraîneurs-là, et puis je mentionne Joël Bouchard comme exemple, mais ces deux-là, quand un joueur, ils veulent le succès du joueur, puis quand le joueur réussit, quand il réussit à bien jouer, réussit à faire de quoi de bien,
très reconnaissant.
Tu sens cet enthousiasme-là, puis il est comme content, comme s'il avait réussi avec toi. Oui. C'est le fun. Ça l'amène les joueurs à continuer à se pousser. Puis c'est cette facette-là, mais des fois, peut-être leur langage du corps ou le langage du visage, là, les traits du visage, on dirait qu'ils sont en train d'engueuler quelqu'un, mais c'est juste la passion.
Je te confirme, en tant que photographe pour l'Armada, j'ai côtoyé Joël pendant deux saisons, ces deux dernières. Ouais, je l'entendais, je le voyais, je le prenais en photo. Puis écoute, j'ai fait des montages de toutes ces réactions ensemble. Je pense que j'avais comme 25 photos dans une, qu'on voyait tous ces visages. Puis en tant que photographe, c'est du bonbon. Joël Bouchard, c'est quelqu'un qui a tellement d'émotions sur un banc que j'adore ça. C'est sûr, j'aime bien mieux ça que l'inverse. En tant que joueur, je me disais, pas sûr que j'aimerais ça être coaché par lui, mais après avoir parlé à certains joueurs, c'est complètement l'inverse. C'est sûr que ça passe ou ça casse. C'est certain que ça ne cliquait pas du tout. Mais tu en as d'autres qui disaient, comme je pense à Alex Barré-Boulay, Alexandre Alain, qui est aujourd'hui avec le Club École du Lightning et le Rocket de Laval. Et puis, les deux, dans le fond, ça a carrément été le coup de foudre avec Joël. Il a carrément augmenté leur progression, amélioré leur carrière. Fait que les deux ont signé un contrat à leur dernière saison comme joueur autonome, dans le fond, dans la Ligue américaine, Ligue nationale. Fait que, tu sais, ça a été vraiment une belle expérience pour eux. Puis de voir à quel point que ce gars-là a réussi à booster au maximum la confiance de ces joueurs-là. Puis les deux m'ont dit la même chose. J'ai été reçu au podcast, puis les deux m'ont dit la même chose. Joël a été un élément marquant dans leur carrière. Puis pourtant, même si on pense qu'il est dur avec ses joueurs, il a été vraiment très positif pour eux. Donc, il faut voir vraiment, pas juste à l'extérieur de ce que nous, on voit à télévision.
Exact, exact. T'as entièrement raison.
Oui. Écoute, faire un, on va survoler vite, vite la fin de ta carrière parce que je vois l'heure qui avance puis je veux qu'on parle de Bob. Mais c'est ça, un podcast, on parle puis ça va s'arrêter. Ça peut être long. J'ai fait 3h10 avec Éric Gagné puis c'était supposé durer 40 minutes. Fait que je te prendrai pas 3h, inquiète-toi pas. Oui, dans le fond, là, tu as terminé ta carrière dans la Ligue nationale avec les Flyers de Philadelphie. J'imagine que ça a dû être assez spécial pour toi parce que tu as terminé avec ton bon ami Max Talbot qui, quand même, c'était un rêve de jeunesse de pouvoir enfiler le même chandail dans la Ligue nationale. Ton meilleur ami, Max Talbot, vous suivez déjà depuis le Midget 3A quand même avec le collège Antoine Giroir. Puis là, vous arrivez dans la Ligue nationale ensemble. Parle-nous de ce moment-là.
Ça a été particulier, mais même avant Midget 3, on a commencé, on s'est rencontrés, on a joué ensemble, on avait 10 ans. Fait que depuis l'âge de 10 ans, on se connaît, on se côtoie.
Wow.
Plusieurs reprises. Oui, c'est fou, les histoires, tout ce qu'on a passé. Mais d'arriver là, oui, ça a été un scénario. C'était particulier. C'était la première fois que je tombais vraiment en libre parce qu'avec le Lightning, j'ai été échangé. Et on a signé un contrat avant le 1er juillet. Et ensuite de ça, avec, dans le fond, avec les Flyers, ça a été le premier 1er juillet que je vivais vraiment libre. Il y avait eu 5 équipes. Justement, j'ai retrouvé la feuille dernièrement de notes, mais il y avait eu 5 équipes qui avaient démontré de l'intérêt. À ce moment-là, les Flyers n'étaient pas là. Puis,
Non, le
Canadien n'était pas là.
OK.
Mais il y avait 5 équipes qui avaient de l'intérêt dans les pourparlers, dans les jasettes de coulisses qu'il y avait avant. Et quand le 1er juillet est arrivé, les Flyers sont arrivés très fort. Et là, ça l'a fait ça a une surprise. C'était très intéressant. C'était une organisation, par exemple, qui était reconnue pour avoir une
robustesse.
Une robustesse, oui, mais c'était une équipe qui essayait de gagner à chaque année, puis qui signait beaucoup de joueurs, puis qui avait beaucoup de mouvements de personnel. Pas exactement ce que je cherchais, mais c'était très attrayant. Le fait que Maxime était là, je parlais avec Yann Laperrière, Daniel Briard, il y avait des gens autour de l'organisation aussi. Simon Gagné qui était là. Donc, c'était une équipe qui, la saison précédente, avait surpris les Penguins de Pittsburgh.
Oui.
Un peu comme avec le Lightning, j'étais très content. Je cherchais à trouver des équipes pour me rendre en série, puis à aller loin, puis vivre ce hockey-là aussi. Fait que les Flyers remplissaient cette case-là. Et ouais, j'ai décidé... ça a été l'année de ça, ça a été difficile, parce que c'était l'année de Zach Parise puis Ryan Suter.
Les
Flyers avaient été très forts envers eux aussi. On s'était entendu verbalement, mais Paul Holmgren, à l'époque, avait demandé « On ne peut rien mettre sur papier. On doit garder ça secret parce que j'ai ça qui attend. » Et lui, il essayait d'avoir Parise et Suter, les deux. C'est les Flyers qui avaient offert le plus d'argent.
Oui.
Il essayait d'avoir ça et de là, il aurait fini, pour finir le reste, peu importe.
Oui.
Il dit « Je dois faire ce deal-là en premier. » Fait qu'on s'était entendu le 1er juillet en après-midi. Max le savait, mais il n'y avait rien de concret et confirmé et signé. Puis tant que tu n'as pas ton nom sur une feuille, c'est stressant.
Ben oui.
Le gars peut changer d'idée. Et ces journées-là étaient très longues parce qu'on avait ils ont étiré, je pense qu'ils ont étiré jusqu'au 4 ou 5 juillet.
Ah mon Dieu, t'es 4-5 jours à attendre.
C'était très difficile. Puis je me rappelle, j'étais avec Martin Lemay et Hockey, le magazine.
Oui.
Stéphane Robida, puis je pense que c'est Alex Burrows, l'autre. Puis il avait invité 3 joueurs de la Ligue nationale, dans le fond, à venir aider à faire le magazine des Pouleurs. Il parlait de ça. Fait que je suis dans une salle remplie de journalistes sportifs.
Tout le monde t'en parle.
Tout le monde écoute. Là, hey, puis, ah non, rien. Et là, la nouvelle sort sur Twitter. Non. Mais mon agent, en même temps, me texte, « OK, appelle-moi. » Là, ça venait de se régler par Parise Suter. Holmgren envoie les derniers détails. « Parfait, on va signer ça. T'as-tu accès à un fax? » Si ça, mais je sors de la pièce pour parler de ça. Je reviens, là, il me dit, « Et puis, y'a-tu quoi? » Non. Là, la nouvelle, j'imagine de ce côté-là, c'est le même que ça marchait. Lui qui suivait l'équipe pour les Flyers, une entente avec le GM, a comme les scoops. Sort le scoop sur Twitter. Je suis dans une salle là. J'ai pas mon nom encore sur une feuille. La nouvelle sort sur Twitter. Je me fais bombarder par les journalistes qui sont là, tous les gens que je respecte. Mais là, je me sentais menteur. Je ne voulais rien dire tant aussi longtemps que j'ai pas mon nom sur la feuille. Fait que ça a été un 4-5 jours là.
Wow.
Intéressant. Fait que quand le nom a été signé, là, on a popé le champagne. Puis là, cette nuit-là, j'ai bien dormi.
Ouais, j'imagine sûrement. Puis ça a sûrement popé le champagne avec Max Talbot aussi. J'imagine qu'il a dû être content, lui, avec.
Ah, ben oui, il était. Je me rappelle pas pourquoi, mais il était à Tampa Bay à ce moment-là.
OK.
Il y avait Marc Lambert. Je me rappelle pas. Il faudrait que je lui demande le pourquoi. Mais quand il a su la nouvelle, il a changé son itinéraire. Il a pris un vol. Il est redescendu direct. Wow. Il est arrivé chez nous avec un chandail des Flyers. Le premier chandail des Flyers que j'ai reçu, c'est Max qui me l'a amené. Chandail wow. des Flyers, on a pris. Quelques photos ensemble, puis on a popé le champagne. C'était un beau
moment. Fait qu'au moins, tu as pu terminer ta carrière avec ton grand chum. Puis en plus, ouais. si j'ai une bonne mémoire, tu avais quand même passé proche de retourner avec l'Avalanche du Colorado du temps que ouais. Max était au Colorado aussi.
Oui, mais un peu après, dans le fond, moi, la deuxième année avec les Flyers, là, les Flyers ont fait de l'acquisition. Ils ont été chercher Andrew McDonald, Mark Streit, encore plusieurs défenseurs. Quand je me suis présenté au camp, j'étais le seul défenseur qui faisait en bas de 3 millions. Dans la panoplie de défenseurs qui étaient là. Il était encore à tout à nipper l'équipe. Fait que cette année-là, je me suis retrouvé dans la Ligue américaine pour commencer. Puis il n'y a pas eu un blessé de la saison. Fait que ça a été ce genre de saison-là que ça arrive. Fait que j'étais là, puis moi, j'étais éclopé un peu là, des restants. Fait que je me suis fait opérer deux fois cette année-là. Fait que c'était comme vers la fin. Je pensais beaucoup à l'Europe. Moi, je savais que j'allais jouer en Europe. Fait que là, avec les deux autres opérations qui s'ajoutaient, j'étais rendu à 5 opérations. Fait que là, je savais que je suis vers la fin. C'était juste trop serré pour m'en aller en Europe immédiatement à cause des camps qui débutent très tôt. J'étais en réhabilitation, je n'aurais pas été prêt. Fait que là, je regardais les options avec mon agent, regardait les options. L'Avalanche avait surpris, mais avait beaucoup de défenseurs peu connus. Il y avait de la place là, il y avait des défenseurs qui quittaient, il y avait de l'espace, il y avait possibilité là. Il y avait eux autres puis les Pingouins à ce moment-là qui étaient très intéressés. Puis j'avais penché du côté de l'Avalanche. J'ai fait le camp là avec l'Avalanche, mais après m'avoir signé moi, ils ont signé pas mal d'autres défenseurs, ça s'est rempli très rapidement. Puis j'étais encore sur ma fin de réhabilitation. Fait que j'ai fait une saison là, vraiment dans la Ligue américaine. Aussitôt que j'ai signé l'entraîneur-chef de la Ligue américaine, qui était Dean Chenette, qui est avec les Hurricanes de Caroline, lui m'avait coaché avec les Islanders de New York, mais c'était lui qui était en chef dans la Ligue américaine. Il savait qu'il avait demandé d'aller chercher un vétéran pour être son capitaine. Un des noms qui était sorti, c'était le mien. Aussitôt que j'ai été signé, mon rôle était décidé d'être le capitaine vétéran dans la Ligue américaine. C'est ce que j'ai fait cette année-là. J'ai adoré l'expérience. Ça m'a pris presque toute la saison à me replacer physiquement.
Ouais.
J'ai terminé, je me sentais bien. Fait que là, j'ai décidé de continuer au hockey et d'aller vivre le trip en Europe, ce que j'ai fait par la suite.
Oui, en Allemagne. Puis écoute, c'est là que ta carrière s'est terminée. J'aimerais qu'on parle également de... Ben, félicitations premièrement pour ta belle carrière de joueur. Un exemple de détermination, de persévérance, de ne pas lâcher malgré que tu as passé proche à 23 ans quand même. Ça a été vraiment une très, très belle carrière que tu as eue. Moi, j'aimerais juste comprendre, en terminant sur ta carrière à toi, comment tu as vécu la transition joueur et analyste? Parce que j'ai reçu Marc Griffin au podcast plus tôt, puis de RDS également. Puis lui, ça a été un peu la même chose. Il a eu une carrière joueur. Et là, du jour au lendemain, elle se termine quand même assez jeune, sa carrière de joueur. Puis là, il se retrouve derrière un micro à interviewer des joueurs qu'il connaît également, qu'il sait qu'il est capable de jouer encore avec eux. Y a-tu un côté de toi qui se disait, il me semble que je ne suis pas du bon bord de la caméra, ou tu étais vraiment prête à cette transition-là?
À ce moment-là, j'étais prêt à cette transition-là. Ça reste très, très, très difficile à faire. Et pour ceux qui vivent ce genre de regrets-là, de toutes sortes de sports élites, quand je parle d'un sport élite, c'est d'un sport que tu fais tous les jours, puis c'est ta ouais. passion, puis peu importe que ça soit rémunéré ou pas, quand tu arrêtes ça, il y a un gros vide dans ta vie. Et c'est pas évident. Et ça a été un peu plus simple, juste par le fait que quand je suis parti pour l'Europe, je suis arrivé à Berlin, moi, puis je suis tombé en amour. J'étais en amour avec la ville déjà de base. C'est Daniel Brière qui m'a arrangé ce deal-là, j'ai été joué là, qui m'a convaincu, dans le fond, de considérer l'Allemagne. J'étais déjà en amour avec la ville de Berlin comme touriste. Et je ne savais pas qu'il y avait du hockey, mais les installations, tout ce qui est là est phénoménal. L'aréna est remplie. C'est presque 15 000 personnes à tous les matchs.
Wow.
C'était génial comme expérience. Et ma première saison, j'étais en amour avec ça. J'ai regardé ma femme, je disais, on va être ici 10 ans. Et je commençais déjà à... Je plaçais mes pions pour m'installer pour de bon. Et je développais des relations en dehors de la glace. J'ai parti ma fondation en Allemagne. J'étais en train de m'établir. Oh, oui, très sérieux. J'avais fait toutes les démarches pour ce qui est au niveau gouvernemental, pour l'école, les enfants, les passeports, les ci, les ça. Je m'installais là. Moi, je revenais pas. Ça allait être Berlin qui allait être ma maison. Et j'ai eu un accident, dans le fond, sur la glace, une blessure. À peu près tout dans mon genou a déchiré. Ah. Ça a été une opération majeure. C'était ma 6e opération vers la fin de cette première saison-là. C'était une superbe saison. Je me sentais bien. J'avais du plaisir à aller à l'aréna. Et là, c'était la seule partie de mon bas du corps qui n'avait pas été opérée. C'était mon genou gauche. Et c'est le genou gauche qui a flanché. Et là, je savais que si je voulais avoir une qualité de vie, il fallait que j'arrête. C'était trop parce que quand tu as une blessure comme ça, tout ce qui vient là, après de compenser puis d'essayer de rebalancer le tout, puis là, les blessures de partout sortent. Fait que ça commençait à être très, très compliqué. Fait que quand j'ai eu ça, je le savais que c'était mon dernier contrat, mais il me restait un an à ce contrat-là. J'avais signé 2 ans. Donc, je me suis fait opérer en Allemagne. J'ai fait ma réhabilitation. Je suis revenu puis je me suis présenté au camp de sélection. Ils ne pensaient pas que j'allais être prêt pour le camp. Mais je me suis présenté, c'était ma dernière saison, donc je n'allais pas manquer rien. Je me suis présenté au camp, j'ai tout fait ce que j'avais à faire toute la saison. Il n'y a pas une fois que je n'avais pas le sourire au visage parce que c'était mon dernier tour de glace. C'était la dernière fois, je le savais, je l'ai savouré, je l'ai apprécié. Ça m'a quand même frappé comme une masse quand le but en prolongation lors de la finale de conférence du Red Bull qui marque le but, qui nous élimine. Je suis où. C'était là. C'était la dernière fois que je mettais les patins dans un match compétitif comme ça. Fait que ça a été tout un choc de ce côté-là. Mais j'avais fait cette paix-là tranquillement. Puis quand je suis revenu, immédiatement, avant même que je prenne ma décision, Dom Vanelli puis RDS, ils m'avaient toujours offert des opportunités. J'ai travaillé avec eux autres pendant des années. Et ils m'ont fait une offre de contrat avant que je prenne ma retraite, puis il disait, gars, cette offre-là va rester sur la table si tu retournes jouer 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas grave. Nous, on veut juste que tu saches qu'on considère t'avoir à temps plein, avoir un travail là, ce que ça pourrait représenter, puis si ça peut aider dans ta décision. Puis ça fait une espèce de filet de sauvetage quand tu prends ta retraite, fait que ça l'a beaucoup aidé le processus d'embarquer dans quelque chose, de se me retrouver dans une autre équipe. D'un autre genre, puis de pouvoir vivre ça, ça a été phénoménal. Et je l'apprécie beaucoup, le geste qu'ils ont fait. C'est un gros deuil à faire, mais ça l'a beaucoup aidé.
Puis ça doit être spécial parce qu'on sait que certains athlètes, un peu comme on en parlait justement dans d'autres podcasts, des athlètes qui, on comprend que les médias ont une job à faire, mais en même temps, quand tu es athlète, tu n'as pas toujours le goût de parler aux médias, puis tu n'as pas toujours envie d'entendre des questions, puis tu as un mauvais match, puis pourquoi tu as un mauvais match. Ça peut être stressant dans le vestiaire après un match. Et puis là, c'est toi qui c'est pas toi qui interview les gens après le match, mais tu es quand même analyste. Est-ce que tu dois te sentir spécial quand tu es de l'autre côté de la caméra d'un bout que tu n'as pas tout le temps apprécié? Et là, tu apprécies d'une certaine façon plus ce métier-là. Ça doit être spécial quand même, le feeling.
Bien, oui, très particulier, surtout dans le jugement. Et au début, il y a souvent qu'on va porter un jugement. Puis moi, je le sais, c'est quoi avoir les patins. Puis je sais c'était quoi l'intention. Puis des fois, je peux comprendre. Puis c'est pas tout le monde qui comprend toutes certaines facettes. Fait que c'est une chose que je voulais faire. Quand moi, j'ai accepté avec RDS, la première chose que je leur ai dit, c'est que venez pas me voir pour taper sur la tête d'un gars qui joue pas bien ou de juste chialer sur les mêmes choses. Je voulais absolument être capable d'être positif et être capable de décortiquer, d'enseigner peut-être certaines choses, de démontrer, d'expliquer, de faire comprendre. Puis c'est ça qui me fait triper. Puis ils ont accepté complètement. Puis ils me donnent toute la latitude possible pour pouvoir le faire. Puis un des exemples, la première année que j'étais là, Braden Shen est venu faire un tour du chapeau à Montréal. Oui. Les Blues de Saint-Louis sont venus. Puis un des buts, c'est une mise en jeu pour une mise en jeu centrale. Ils gagnent la mise en jeu. Leurs défenseurs se font une passe, le D2D, là, un défenseur à Petrangelo, qui fait une passe à Braden Shen, qui s'en va tout seul, qui score en échappé. Puis là, tu dis, ben, un jeu arrêté comme ça, c'est supposé être contrôlé. Puis c'était Osner et Petrie sur la glace. Puis là, tout le monde a blâmé les défenseurs. Puis Osner reçoit des insultes sans arrêt. Mais au niveau de tactique collective, je comprenais très bien ce qu'il voulait faire, puis les défenseurs avaient fait la bonne chose. Puis j'ai même parlé à Braden Chen le lendemain. Braden, fais juste confirmer avant, parce que je m'en allais à RDS, fais juste confirmer ce que toi, tu as vu sur la glace, qu'est-ce qui est arrivé, blablabla. Puis c'était son joueur de centre qui a eu une bulle au cerveau. Ça arrive. Il a voulu anticiper, il pensait qu'il coupait une passe. C'était Philippe Danault, un excellent joueur. Il est dans la conversation pour le Selkie, c'est un des meilleurs dans la ligue. Ça arrive, des erreurs. Il essaie de couper une passe, il laisse aller son gars qui s'en va directement en échappée parce que les deux défenseurs mettaient de la pression sur les ailiers. Mais là, tout le monde lançait des flèches à Osner, puis c'est parce qu'il est trop lent, puis il n'est pas prêt, puis blablabla. Fait, moi, j'ai juste, tu sais, je voulais pas, j'ai juste décortiqué la mise en jeu, puis voici ce qui aurait dû arriver. Puis là, j'ai reçu beaucoup de commentaires, même des amis qui appelaient, puis tu vois, hey, c'est vrai, ça, j'ai pas vu ça, pas en tout. Puis des fois, quand tu arrives vite, tu regardes juste la reprise, tu vois Shen passer, tu vois Osner en arrière, puis t'es là, qu'est-ce qu'il fait? Fait que c'est ça que je veux amener.
C'est la sauce que t'apportes. Oui, c'est tellement bon. Puis c'est vrai que, tu sais, ceux qui ont la chance d'écouter la nouvelle émission que vous aviez à RDS d'un autre angle, je pense que, dans le fond, pendant un match de hockey, vous décortiquez le match. Souvent, toi et Max, vous avez été à cette émission-là aussi. Puis, c'était. Sur le coup, moi, j'étais contre cette émission-là parce que je me dis non, la voix de Pierre-Route, tu sais, tu peux pas écouter un match sans Pierre-Route, ça marche pas pour moi. Puis là, la game commence. Puis, c'était contre Détroit, je pense, la première fois que je l'ai écouté. Puis là, non, regarde, c'est contre Détroit au pire. Là. C'est pas le match le plus palpitant. Je vais quand même l'écouter à d'un autre angle. Je vais l'essayer. Et là, je vois l'analyse de Max à un moment donné qui dit « Ah, ben c'est parce que quand tu arrives dans le coin de la patinoire, là, tu ne peux pas te positionner de telle façon. C'est pour ça qu'il ressort de telle façon. » Puis là, ça part, là, il raconte une anecdote que lui a vécue. Un peu comme un podcast, là, tu rentres dans un... Tu as l'impression d'être dans la discussion. Puis en même temps, tu es tellement concentré sur le match, tu regardes les moindres détails, puis tu te dis, tu as l'impression d'être sur un banc de joueurs, là, puis là, tu as des joueurs qui regardent la game, puis qui décortiquent tout ça. Là, je comprends, c'est vraiment d'un autre angle, là, c'est carrément ça. Le titre est excellent, puis j'ai adoré cette émission-là, que j'ai regardé plusieurs parties comme ça par après, puis je suis plus la game, je pense, de même qu'avec Pierre-Houd, pourtant il est excellent, là, tu sais, fait que, je pense que c'est vraiment ce que RDS apporte peut-être de différent de TVA Sport pour rentrer dans le débat, mais c'est vraiment arriver avec des excellentes analyses puis un point de vue qui est complètement différent, beaucoup plus axé sur les petits détails puis les choses de la game comme toi tu l'as vécu.
Exact, c'est ce qui est le fun. D'un autre angle, devrait revenir, comme le hockey devrait revenir, mais c'est quelque chose qui... Puis Marc Denis et Pierre-Houd font un excellent travail. C'est légendaire ce qu'ils font.
Ah, c'est clair.
Mais nous, on utilise juste le fait qu'ils n'ont pas le même temps. Marc Denis n'a pas le même temps parce que c'est normal. Pierre fait la description du match quand tu veux suivre ce qui se passe. Puis des fois, tu fais d'autres choses. Tu entends la voix de Pierre qui te décrit l'action. Puis tu le sens dans sa voix s'il se rapproche du but, s'il faut que tu lèves tes yeux. Puis ça, c'est magique pour un match de hockey. Mais nous, on dit, gars, si on enlève ça, ce que Marc, c'est toutes des connaissances. Puis ce que Marc voit, mais lui, Marc essaie de le rentrer dans certains endroits dans le match. Mais nous autres, on prend ce place-là de l'analyste. Puis là, on l'étend pendant le match au complet, pendant les entraques, pendant trois heures de temps. C'est une gang de chums qui jasent de hockey. Mais tes chums qui jasent de hockey, c'est des gars qui ont joué dans la Ligue nationale, puis c'est des entraîneurs, Guy Boucher, qui a coaché la Ligue nationale. Fait que des fois, on n'est même pas d'accord. On va parler d'un point de vue, puis on dit, gars, moi, d'un point de vue de défenseur, moi, je vois ça, ça, ça. Puis là, Guy Boucher, d'un nouveau entraîneur, moi, je veux ça, ça, ça. Fait que là, c'est là que tu ça vois toute l'information qui est derrière tous les détails du jeu. Puis on a du fun à faire ça. C'est tellement plaisir. Ça passe vite.
On sent
vite.
Le fun. T'as le goût de prendre une bière en vous écoutant. Puis tu sais, de dire, tu te sens vraiment dans la discussion. Je peux pas l'expliquer autrement. C'est vraiment le même feeling que j'ai eu en écoutant un podcast avec vous. On sent pas l'émission structurée, tu sais, comme on voit souvent à la télévision. On sent que c'est beaucoup improvisé sur le fly. Comment vous le filez, vous l'expliquez vraiment, là. Pareil comme des gars de hockey dans une chambre de hockey, puis ça sort comme ça sort, puis c'est ça qui est le fun à écouter. C'est pas des mots déjà pré-mâchés d'un script, là, c'est vraiment comme vous le sentez. Puis j'espère vraiment que ça va durer longtemps, cette émission-là.
Ah, puis nous autres aussi, on a le goût de prendre une bière des fois.
Quand... J'imagine. Ouais, c'est ça. C'est difficile à la télé, mais c'est quand même, ça serait le fun.
Exact.
Parlant de bière, écoute, je vois l'heure qui avance, excuse-moi, mais c'est tellement intéressant ta carrière, puis on en aurait pour encore une heure facile. Mais là, il faut qu'on parle de Bob Bissonnette. C'est le but, la semaine du podcast Bob Bissonnette.
Parlant de bière, oui.
Ouais, c'est ça. Parlant de bière, là, je voudrais bien en prendre une, mais j'ai pas d'idée, puis c'est comme bizarre. Fait que, j'en ai pris une dans le podcast avec Marie-Pierre, puis il était trop de bonheur. bonheur. Ça n'a vraiment pas bien passé. Fait que désolé, mais à l'honneur de Bob, je vais dire quand même gorgé, comme j'ai dit dans le dernier podcast. Oui, donc, on veut connaître d'où a parti ta belle relation d'amitié avec Bob Bissonnette. De mémoire, ça date du junior, mais explique-nous ça.
Bien, ça a commencé bizarrement, notre relation. La première fois que j'ai vraiment rencontré Bob Bissonnette, en gros, c'était, j'étais couché à plein ventre sur le centre, au centre KC Irving Center, devant mon banc, et il est par-dessus moi et il me tapoche comme un sac de sable.
C'était un goon, Bob. Pour ceux qui ne le savent pas, il jouait dans le temps.
C'était un dur à cuire. Quand tu parles là, pound for pound là, de son gabarit, là,
il était pas gros.
Durs, il s'attaquait au plus gros. Mais c'était toute une personnalité, comme vous le savez, ceux qui le connaissent. Mais ce match-là, moi, je jouais tout le temps contre le premier trio adverse. À mon année recrue à Bathurst, j'étais avec Miro Durac et on jouait contre le premier trio adverse. Et ce soir-là, contre Hall, les Olympiques de Hall à l'époque, c'était Emski, Max Talbot et Bob Bissonnette. Les autres brassaient leurs affaires.
Puis, un drôle de trio, ça.
Un drôle de trio. Mais Bob Bissonnette, il se débrouillait bien. Puis défendre Emski, il a joué pas mal avec Emski. Mais c'est un genre de match qu'à la maison, on était une très, très bonne équipe. Cette année-là, on avait été longtemps premier au Canada. C'était pas évident de venir jouer au centre KC Irving Center. Et on leur donne une volée. On leur donne une volée, mais à l'époque, des matchs comme ça, junior, quand il y a des volées qui se donnent, bien, c'est des matchs qui finissent, c'est long et c'est très dur. Mais pendant ce match-là, le trio de Max embarque sur la glace. Fait que là, nous autres, on change de défenseur. Fait que j'embarque. Puis en m'en allant vers ma position, je croise Max. Fait que je donne un coup, comme on se fait à chaque fois qu'on a joué contre. Je donne un coup, puis je lance une insulte. Ça faisait partie de notre jeu. En niaisant, mais quand on jouait contre, on se donnait tout le temps de l'extra, tout le temps des crush check. Il n'y a pas une fois qu'il a pu finir sa mise en échec sur moi et qu'il n'a pas fini. Il n'y a pas une fois que je pouvais lui donner un coup devant le filet et je n'y ai pas donné. C'était tout le temps de l'extra. On a fait une série 4-7 contre au niveau de la Ligue américaine. Puis c'était l'enfer. C'était tellement le fun parce qu'on est deux très compétitifs. Bob Bissonnette, à ce moment-là,
il ne connaît
pas l'histoire de Max.
Ah non.
Fait que lui, il voit son joueur de centre, son jeune joueur de centre, espoir, se faire slasher et se faire insulter devant lui.
Ah non, il est rouge. Bleu.
Pour ceux qui le connaissent, là, c'est ça, les yeux sont ronds de même. Puis là, je m'en vais à ma mise en jeu. Puis là, il me fixe. Puis quand Bob Bissonnette te fixe, avec les dents qui sortent, les yeux de même, tu le sais. Fait que le jeu commence. Puis peu importe, là, ça finit.
J'ai l'image en tête, excuse.
Le gardien l'arrête. Et il y a une espèce d'escarmouche. Là. Tout le monde se retrouve dans le coin. C'est sur le bord d'arrêter. Puis un de leurs défenseurs, c'était Dominique Damour, frappe un de nos joueurs. Là, moi, je suis prêt. Fait que là, je prends Dominique Damour, ça brasse, on tombe. Les officiels nous séparent. Fait que je suis le premier qui s'en va au banc. Mais j'ai toute la visière embuée. Fait que là, je lève mon casque. Puis l'officiel m'escorte jusqu'au banc. Puis à peu près là, à 30 pieds de mon banc, il me lâche pour retourner dans le tas. Fait que là, moi, je m'en viens vers mon banc. Puis tout ce que je vois, c'est tout le monde sur le banc debout qui pointe en arrière de moi. J'ai juste le temps de me retourner un petit peu la tête, puis là, je vois le gant noir arriver, puis paf, là, tout tombe, je tombe par terre, je vois rien, il y a quelqu'un qui me saute sur le dos. Puis là, je mange des tapes d'un bas à gauche, puis à droite, puis j'ai pas le temps de voir. Il fallait qu'un gars sorte du banc, puis qu'il vienne. Et moi, j'étais une jeune recrue de 17 ans, puis lui, c'était un joueur de 20 ans à l'époque.
Ouais, c'est ça.
Il y a un de nos joueurs qui a sauté sur la patinoire. Là, il y a eu un combat, Bob est sorti, c'est fini, le match se termine. Puis deux semaines plus tard, là, ça a fait tous les émois, blablabla. Mais deux semaines plus tard, Bob Bissonnette est échangé de Hall à Bathurst. Puis je rentre dans la chambre, puis il est assis à côté de moi dans la chambre. Il me voit arriver, on est assis, puis une petite tape sur l'épaule, puis il dit « Sorry, kid ». Je n'aurais pas dû faire ça. Ben, en tout cas, je suis content de savoir que tu es dans mon équipe maintenant.
Ouais, c'est ça. T'as mieux l'avoir avec que contre toi.
Exact. C'est le même que j'ai rencontré Bob. Puis,
wow.
Depuis, là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de péripéties.
C'est rare des amitiés qui commencent avec un coup de poing sur la gueule, mais dans votre cas, c'est ça qui est arrivé. Wow, okay. Belle anecdote. Merci. Fait que là, ouais, là, vous avez vécu quand même la dernière, votre fin de carrière, sa fin de carrière à lui, en fait, junior, avec le Titan. De mémoire, c'était pas là, parce que dans le documentaire qui est sorti sur Bob, on avait entendu parler que sa carrière junior s'est finie abruptement sur un cheap shot. Je pense qu'il avait eu, il avait les cheveux même blonds comme tout le reste de votre équipe, que c'était comme la mode à cette époque-là. Et puis, c'est ça, dans le fond, lui, il a dû vivre rough dans le vestiaire après la game. Tu l'as vu aussi, comment il était là?
Mais c'était tellement devenu l'âme de l'équipe que la douleur était, oui, on avait perdu, mais c'était surtout en nom, puis c'était pour Bob. C'était pour Bob qu'on jouait. On était une excellente équipe, une équipe très robuste aussi. Cette série-là, Bob s'était fait demander de faire quelque chose pour sortir un des joueurs de l'autre équipe, des choses qui arrivent, des histoires de juniors. Parce que c'était pas Bob de faire ces choses-là. Oui, il y avait un geste. Bob a été suspendu pour le reste des séries. C'est sûr que ça l'a fait mal à l'équipe de perdre l'âme de l'équipe comme ça. Mais il voulait tellement qu'on gagne. Il était proche. Il était dans la chambre autour de l'équipe. Et quand on a perdu ce dernier match-là, match 6 à Victoriaville, je me rappelle où il était assis à pleurer comme des bébés. Ça a été quelque chose. On est retourné à Batters. Puis Bob, il chantait après tous les matchs. À chaque sortie d'équipe, il chantait. Mais un des plus beaux moments que j'ai junior, c'est il chantait tout le temps la chanson With or Without You, YouTube. Fait qu'il est sur le stage dans un bar à Batters. C'est toute l'équipe, on est en rond, on se tient vers les épaules. Puis c'est lui qui chante ça. Puis c'était comme ça. C'était la dernière soirée de tout ça. Fait que c'est un des beaux souvenirs que j'ai intense du niveau junior. Mais tout le monde voulait gagner la coupe pour Bob. Puis ça faisait juste quelques mois qu'il était là, qu'il était arrivé à Batters.
Ah, tellement. Puis, tu sais, on a vu aussi Max Talbot qui en avait déjà parlé dans d'autres entrevues, que comment il était dans la chambre, justement, à Hull, puis, tu sais, qu'il grattait tant sa guitare ou d'un soir sur le bord d'un feu ou d'un bar ou whatever. Tu sais, sa carrière de chanteur n'a pas débuté en 2010 avec Recrue de l'année, son album. Là, ça a vraiment débuté ni au party de 2009 avec Max de la Coupe Stanley. Là, ça a vraiment débuté bien avant ça dans les chambres de joueurs de hockey qu'il a vécu. Et puis, je pense que toute la belle histoire de Bob Bissonnette, c'est vraiment, on sent l'ADN d'un joueur de hockey, on sent l'ADN d'un goon, d'un gars qui défend ses coéquipiers, ça paraît dans ses chansons également. Et puis, je pense que toi, tu as vécu au moins tout ça, tous ses débuts dans le vestiaire comme chanteur, puis ça, il doit tellement avoir d'anecdotes aussi, des moments cocasses que vous avez vécu avec lui.
Mais il n'y avait pas un moment à plat avec Bob, peu importe ce que tu fais, peu importe quand. Puis avec Bob, cette année-là, on s'est liés d'amitié. Il y avait Max qui était l'ami en commun en plus. Et de là, on allait au Jobstock. Son grand ami Steve Jobidon, Steve, il chantait. On s'en allait au Jobstock ensemble, on tripait, on l'a fait. Je pense que dans le documentaire, il y a des vidéos de celui-là. J'ai plusieurs photos du premier. On a 17 ans à ce moment-là, puis on est au Jobstock à Québec. On était là à toutes les soirées le plus possible. Il nous a fait découvrir sa gang, une gang de méchants malades à Québec. Ils sont super fun. Trippant.
Des crinqués,
exactement. C'était à l'image que Bob décrit, ce que Bob dégage. Sa gang de chums était très particulière. C'est incroyable. Comment ça bouge, comment c'est du monde vrai, puis le fun. Puis de là, on était chanceux. Longtemps, même à partir du niveau professionnel, il venait nous voir partout où on était. J'ai des photos de lui quand il est venu à Long Island. Mais Bob, il n'y a jamais rien de plat. Tu y parles? Je t'en raconte une autre petite, là, parce que je pourrais t'en rencontrer pendant à peu près trois semaines.
Raconte les meilleurs.
Bob, c'était lui de visiter les arénas, de voir différentes places. Le sport, c'était une passion. Mais tout le temps, un petit quelque chose, tout le temps quelque chose de plus. Fait que là, on jasait, puis tu vas voir, je vais être dans les estrades, puis tu vas me remarquer. Genre, ouais, Bob, on s'était fait un pari. Je dis, Bob, je te donne, c'était un shooter jack ou quelque chose comme ça. À chaque fois que tu vas passer à l'écran géant, dans le match, en passant.
Tu vas être sous à la fin de la soirée.
Non, mais dans ma tête, s'il est chanceux qu'il est en arrière une fois, mais sinon, ça n'arrivera pas.
À Long Island, ça, ou?
À Long Island.
Oh, mon Dieu.
Puis, il est arrivé avec un T-shirt qui disait « Bruno, je suis enceinte ». C'est « Bruno, I'm pregnant ». En gros, il est passé à Jumbotron 4 ou 5 fois. C'était tout le temps des affaires de même.
Oh, mon Dieu.
Il recevait des appels, là. Puis ça, il faisait ça avec toute sa gang de chums. Il y avait tout le temps plein d'idées de différentes façons sur n'importe quoi. Mais ça a été trippant. Puis longtemps, même au début de la Ligue nationale, quand on avait le congé, que ce soit les Olympiques ou le match des Étoiles, il y avait tout le temps un congé pendant l'année. Bien, on allait en vacances. À ce moment-là, moi, j'avais ma copine, ma fiancée, avec Max Talbot puis Bob Bissonnette. C'était les deux couples qu'on allait ensemble. Max puis Bob, moi puis ma fiancée Mel, on se faisait des voyages ensemble. Fait que là, ça, c'était... Il fallait que tu prennes des petits congés des fois de ça, juste pour arrêter de rire. T'as mal au ventre, t'as mal à la face. Mais c'est des méchants beaux souvenirs qu'on a bâtis.
Wow! C'est quoi ton dernier souvenir que t'as avec Bob la dernière fois que vous êtes vu, que ce soit un voyage ou je sais pas trop?
Et plusieurs. Bon, dans les derniers, là, c'était, on se parlait beaucoup pour un projet qui avait un projet d'affaires. Fait que Bob, c'était le party, le fun, le projet, le si. Il y a toutes sortes de facettes. Fait qu'on, à ce moment-là, on était en grande conversation. On parlait souvent, on avait des rencontres, on faisait certaines choses pour un projet d'affaires qu'il avait. Fait que ça, c'est dans les derniers souvenirs. Mais une chose, puis ça, je le regrette beaucoup, mais il y a ces moments-là, hein, quand ça arrive, tu sais jamais quand ça va arriver, mais il est venu jouer à Saint-Hyacinthe, à l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe. Okay. Puis Bob, on n'avait pas la chance de le voir tout le temps dans ces gros événements, puis quand tout ça est arrivé, j'ai la tristesse de réaliser que je ne savais pas à quel point ça l'avait pris de l'ampleur. Je le savais que ça allait bien, ces choses, puis c'était le fun, parce qu'il était trippant du jour 1. Peu importe qui le rencontre, il va marquer sa vie, c'est une soirée marquante, c'est une soirée trippante. Il fait sentir que tout le monde sont particuliers, sont spéciaux. Tout le monde, tu sais, quand c'est arrivé, là, quand il est décédé, c'est comme s'il y avait 500 000 amis. Tu sais, il fait sentir tout le monde d'une façon particulière. C'est un gars qui est c'est un trippeux, c'est un vrai bon vivant. Mais je n'avais pas réalisé à quel point ça avait pris de l'ampleur. Puis, il venait jouer à l'Expo agricole, puis je disais, tiens, Bob, je vais aller te voir jouer. Et au moment où il allait, c'était pas longtemps avant de quitter pour moi. Puis là, l'entraînement était intense. On était en mode paquet. Puis une de ces soirées-là, je disais, hey, Bob, gars, je pourrais pas y aller, mais on se reprend, je te revois là, puis pas de trouble, puis OK. Puis là, je pars. Puis c'était comme ma dernière occasion de le voir, puis de le regarder performer. Puis ça a été un gros regret. Mais qu'est-ce que ça aurait fait 2 heures de moins, c'est que de me coucher 2 heures plus tard, tu sais. Ça a été le dur quand tu reviens sur la... Quand ça arrive, là, tu reviens un peu sur le avant. Mais c'est ce sentiment-là, mais c'est beaucoup plus de bons souvenirs, de voyages, de son vidéoclip. Là, j'accroche mes patins. C'était mon préféré. On était dans un voyage aux Bahamas, justement les quatre. D'innombrables bons souvenirs. Peu importe le moment, il n'y avait jamais rien de plate avec Bob. Fait que la liste est immense. Fait que je préfère penser à eux que quoi que ce soit d'autre.
Non, faut pas avoir de regrets. C'est sûr que quand un événement comme ça arrive, tu sais, personne ne s'attend à ce qu'un autre chum nous quitte à peu près à 35 ans. Tu ne penses pas à ça. Là, c'est surtout à cet âge-là. Là, dans ta tête, il va être là pendant tellement d'années. Puis c'est pour ça que oui, c'est sûr que peut-être une fois que tu as dit ah, j'aurais peut-être dû y aller, j'avais le temps, ou il me couchait 2 heures plus tard. Mais ça ne donne rien de penser à ça parce que. On ne peut pas le savoir à ce moment-là, que ça remet des choses en perspective, tout ça. Puis après ça, tu te dis, bagarde, quand ça arrive encore une situation de la sorte, bien, tu te dis, on peut être y aller, on ne sait jamais ce qui va arriver. Puis garde, on ne prend pas de chance, au moins, je n'aurai pas de regrets. Puis là, bien, peut-être ça peut nous faire voir les choses différemment pour l'avenir. Puis, tu sais, même moi, j'étais supposé de voir Bob en show le 5 août, le mois avant sa mort. Puis, il était à un expo Festival du cochon de Sainte-Perpétue, une fois de même, là, je pense. Puis, ça y ressemblait. Là, dans la première partie des Cowboys Fringants. Puis, j'étais supposé aller le voir en show. Puis, finalement, à la dernière minute, j'ai appris qu'il y avait Éric Lapointe à 2 rues de chez nous, gratuit, extérieur, avec genre 50 000 personnes de prévu. Puis là, j'étais, oh mon Dieu, je peux pas manquer ça. Il n'y a jamais rien à côté de chez nous. Puis là, j'ai mis rebelle. Il faut que j'y aille absolument. Fait que j'ai dit, OK, j'irai voir Bob dans un mois, il est à Montréal. Fait qu'il est arrivé à Montréal le 26 septembre. Puis finalement, ben, j'ai acheté mes billets pour au Métropolis, je pense, dans le temps que ça s'appelait, qui s'en venait là. Puis le 4 septembre, il est décédé. Fait que, tu sais, c'est sûr que par après, tu te dis, tu sais, j'aurais dû, mais regarde, on ne pouvait pas le savoir personne, puis regarde, c'est arrivé, mais il faut garder en tête tous les bons côtés que Bob a eus, les belles anecdotes, les moments incroyables qu'il a donnés, les albums qui encore à l'heure actuelle jouent beaucoup, que les gens réécoutent souvent. Ça fait du bien au moral aussi. C'est tellement des tunes positives. C'est drôle, c'est humoristique. Il y a tellement de beaux clips aussi à voir qui ont des millions de vues sur YouTube. Tout le monde qui veut aller voir ça, là, c'est que Bob, c'est une rockstar carrément dans les régions, comme je disais. Les voir en show, ceux qui ne l'ont pas vu en show, là, allez voir ça live, Bob Bissonnette sur YouTube. Écoute, les femmes lançaient le brassière sur le stage, puis pour un rappel, c'est carrément ça. Là, c'est ça, Bob Bissonnette. Là, c'est
une rockstar. Mais c'est tunes, tu sais, j'adore ces tunes. Il y en a plusieurs là, qui reviennent souvent dans mes journées, mais c'était vraiment quelqu'un qui créait des événements, qui créait des moments. Puis c'est pour ça que une des facettes au début, puis quand tu parlais aux proches, c'était choquant un peu du fait que tout le monde se sentait un grand chum de Bob. Fait que là, une fois qu'il est disparu, c'est pas que tu veux tirailler avec quelqu'un et dire « Mais non, il est plus mon chum que toi. » Ben, t'as une minute, là, wow, puis là, c'est tu réalisais. C'était pas du monde qui était « Ah oui, moi, j'aime sa musique, j'aime son travail. » Il était devenu chum avec parce qu'il créait des moments, il créait des expériences phénoménales, puis il était tellement humble, puis tellement bon là-dedans qu'il faisait sentir tout le monde comme des gens spéciaux. Puis ce talent-là, c'est ce qui était Bob, c'est ce qui faisait que ça s'était rendu fou partout, c'est que le monde allait là, puis « Hey, je m'en vais vivre de quoi être fou à soir. » C'était ça la vraie expérience, puis c'est un art que lui a maîtrisé, qui était phénoménal, qu'il avait depuis le début. C'est un aimant. Il l'a fait. Les gars pleuraient quand il est parti de Gatineau, de Hall, à l'époque, les Olympiques de Hall. J'ai vu beaucoup de transactions, puis oui, t'es triste, tu perds un champ, puis ça arrive, mais les gars pleuraient, puis il est arrivé à Bathurst, puis en quelques mois, tous les gars étaient rassemblés autour de lui, c'était l'homme de l'équipe, puis quand il est parti, c'était comme si ta mère te quittait. Les gars étaient tristes. Fait que c'est le genre de gars tellement attachant à qui tu t'accroches. Là. C'était particulier.
Ouais, Max avait raconté aussi qu'il était, je pense, au Boston Pizza quand c'était comme le spot à eux autres, là, à Gatineau Hall. Puis ce qu'il disait quand il avait appris ça, écoute, Bob était en larmes, tout le monde pleurait avec lui. Tu sais, c'était vraiment l'âme de l'équipe. Puis souvent, on perd un peu de vue l'importance de quelqu'un qui est le cœur d'une équipe. On pense un peu avec le Canadien Brandon Prost. Des choses comme ça, tu sais, que oui, ils n'ont peut-être pas 45, 100 points par année sur le board, mais ce qu'ils font, au-delà des points aussi, là, mais ce qu'ils font aussi dans le vestiaire, l'âme d'une équipe, ça passe souvent d'un gars qui rassemble tout le monde, qui est un leader, même si ce n'est pas un C sur son chandail, qui est un gars de quatrième trio, mais qui apporte tellement dans le vestiaire à la chimie qu'un coup, tu perds ça, ben peut-être que tu pensais, « Ah, oh, regarde, on va le remplacer un autre gars de quatrième trio, ça se trouve facilement. » Mais là, toute l'équipe est comme détruite, est démolie, est plus de morale. Puis là, tout d'un coup, tu pars dans une séquence de défaite pour un gars. Tu sais, c'est niaiseux, mais c'est ça, je pense, que Bob apportait aux Olympiques et aux Titans.
C'est le côté humain. C'est le vrai côté humain.
Exactement. Écoute, c'est vraiment des super de bonnes anecdotes. Puis là, je vois l'heure qui fait le fond. Je te laisse aller, Bruno. Mais en terminant, as-tu une dernière anecdote qui te vient en tête, un moment loufoque ou drôle que tu as envie de partager avec nous, en fait, par rapport à Bob? Ou c'est pas mal tes meilleurs moments que tu as racontés en masse aussi?
Ah, mais j'en aurais sans arrêt. Mais un
seul.
Un petit pour le dernier, là, pour te donner... L'âme, la présence que Bob avait, justement, dans un de ces voyages-là aux Bahamas, c'était aux Bahamas qu'on était, on est dans un restaurant, dans un bon restaurant. Puis un de ces restaurants-là, là où c'est silencieux, c'est très, très classique, c'était une belle expérience au niveau culinaire, plus que d'autres choses. Puis c'est quand même tôt dans la soirée.
Ouais.
Mais avec Bob, je te l'ai dit, il n'y a jamais rien de plate. Fait qu'on est à la table, puis après avoir discuté, fait plusieurs débats, avoir fait notre repêchage des super-héros, d'avoir choisi des équipes super-héros, débattu qui battrait qui, dépendamment si c'est sur le sol, dans l'eau, dans les airs. Puis tout ça, toutes des grosses conversations. Ça pourrait tomber à politique, dans le hockey, dans n'importe quoi.
Très varié. Là.
Pendant la soirée, un moment donné, il s'en va aux toilettes, puis en revenant, il se met à chanter un petit peu. Puis là, il y a une table qui pogne. Puis là, il chante un peu. Puis là, il se met à niaiser un peu avec eux autres. Puis là, il commence à leur jaser. Il aimait ça aller rencontrer du monde jaser. Je sais pourquoi. Ah, la fête d'un, il y avait des ballons. Fait que là, prends les ballons. Puis c'est la fête de quelqu'un. Fait que là, Bob avait une façon très particulière de chanter bonne fête à quelqu'un. Oh, en anglais. Fait qu'il se met à chanter bonne fête. Puis là, il fait embarquer le reste du restaurant. Puis là, après la chanson bonne fête, il décide de chanter une autre chanson. Puis il continue. Fait que le monsieur à la table, inspiré, se lève, se met à chanter du Elvis Presley. Oh, ça fait 5 minutes. À ce moment-là, ma femme était partie aux toilettes. Quand elle est revenue, elle a quitté, c'était tranquille, t'entendais les couteaux taper sur la vaisselle. Quand elle est revenue, le restaurant était debout, chantait, puis ça dansait, puis Bob avait les ballons attachés autour du poignet. Ça, c'était Bob Bissonnette. Fait que là, wow. Elle est revenue, elle dit « Qu'est-ce qui est arrivé? » Fait que là, debout, ses banquettes, à taper des mains. Là, tu voyais que les serveurs, les serveuses, étaient, les autres n'avaient jamais vu ça. C'est pas le genre de restaurant que tu fais ça. Le parti élevé dans la place, on a eu du fun avec eux autres, puis ces ballons-là sont restés attachés autour de son poignet toute la soirée. Fait qu'on était, on a fini plus tard au casino de l'hôtel. On se promenait, on cherchait Bob, on voyait juste les ballons passer. On disait, il y a là Bob, puis là, on trouvait Bob. Puis ça, c'était une soirée Bob. Wow. C'était incroyable. Le plaisir qu'on peut avoir.
Hey, c'est fou. Hey, ben merci énormément pour ces anecdotes-là. C'est toutes des choses qu'on n'entend pas tout le temps, mais tu sais, je me dis, tu l'as vécu de proche, tu avais une belle relation avec lui, puis c'est pour ça que je voulais te recevoir. Également, ça aurait été plaisant aussi de recevoir Max, parce qu'on sait qu'il y avait énormément d'anecdotes, lui également, j'imagine, à raconter. Mais écoute, je suis tellement heureux de t'avoir reçu, Bruno. On a parlé beaucoup plus de ta carrière que je pensais. J'ai pris énormément plus de ton temps aussi que je pensais. Mais écoute, un gros merci de ta générosité d'avoir pris ce temps-là avec moi et puis avec tous les auditeurs également. Merci énormément. Et puis, tous ceux que ça l'intéresse, il y a également le podcast sur Marie-Pierre Simard qui a sorti juste avant celui que vous écoutez en ce moment, qui est l'ex-conjointe de Bob et une entrepreneur chevronnée de la région de Québec que j'ai appris. Mais... incroyable tout ce qu'elle fait. Des tartes, là, vous en voulez, aller au royaume de la tarte à Québec.
Ah, c'est fou! Mais la personnalité aussi de Marie, c'est incroyable. Juste aller la voir, la broche à foin aussi.
Oui, la broche à foin, en bas.
Qui est exceptionnelle. Si tu veux vivre une vraie soirée, là, puis triper. Ça, c'est une soirée de la fun. Mais merci beaucoup de m'avoir accueilli, dans le fond, là-dessus. De raconter ces histoires-là, ça me permet de les revivre un peu. Fait que c'est sûr que je vais avoir un petit sourire dans le visage tout le reste de la journée. Je découvre ton travail en même temps. Je découvre ton podcast. Je trouve ça écœurant. Puis, qui sait, tu vas peut-être avoir complètement réorienté ta carrière. Tu ne reviendras peut-être pas à être photographe. Tu vas continuer là-dedans. Tu es vraiment bon.
Merci beaucoup, Bruno. C'est vraiment apprécié. Puis non, je ne sais pas où ce que ça va mener. T'sais, j'ai quand même reçu Éric Gagné, Game Over, le deux podcasts en fait que je ne m'attendais jamais à recevoir. Écoute, ça grossit de plus en plus, pas de côté. Écoute, j'ai tellement des bons invités que je suis tellement chanceux d'avoir reçu, dont toi. Puis ça a pris une ampleur que je ne m'attendais pas. Les gens sont vraiment de la partie. Il manque juste à faire connaître ce podcast-là parce que je ne suis pas quelqu'un de connu, mais on ne sait pas où ce que ça va aller.
Non, ça va mener. Mais t'enverras. Envoie-moi tes liens. On va t'aider à promouvoir les liens, mais... Tant mieux. Très intéressant. C'est super le fun de jaser.
Ben écoute, un gros merci. Puis comme je vous dis, ceux que ça l'intéresse, c'est la semaine de Bob Bissonnette qui se termine en ce moment. On a eu Marie-Pierre Simard et Bruno Gervais. Et puis, la saison 1 du podcast se termine tout bientôt, en fait, là, dans les prochains épisodes. Je devrais me rendre à 25. On est à 23. Donc, c'est un des derniers de la première saison. Espérant que ça se poursuive pour une deuxième saison en force. Et puis, on va travailler l'été pour améliorer le tout.
Ben moi, j'ai une demande dans la façon que tu vas monter tout ça, là, j'aimerais, moi, il y en a plusieurs que j'adore pour différentes raisons, là, mais j'aimerais que tu mettes la chanson Guimauve et la chanson J'accroche mes patins.
J'accroche mes patins était déjà de prévu, mais Guimauve, je vais la prendre en note.
C'est deux qui, pour moi, reviennent très, très, très souvent, qui ont de grandes significations. J'adore. Fait que si t'aimais là-dedans, c'est mes demandes pour le montage du podcast.
Écoute, parfait. Moi, je vais t'en faire une en retour. Si tu as des photos avec Bob, que ce soit des voyages ou sur le party, envoie-moi-en le maximum. Moi, je fais un montage photo, vidéo à la fin, au début du podcast aussi. Donc, avec les tunes également de Bob, fait que ça va donner une meilleure saveur au podcast encore.
c'est bon. Je vais regarder ce que j'ai. Ça, c'est une affaire qui est plate un peu à l'époque. On s'est connus, puis surtout
moins de cellulaire.
C'est ça, c'était pas le réflexe qu'on avait. Fait qu'il y a des soirées qu'à deux coups, il y a un appareil qui se pointait, mais j'ai jamais été un gars à réflexe de photo, mais encore moins quand il n'y avait pas de cellulaire ou que c'était pas pantoute au début. Fait que j'en ai quelques-unes. Je vais t'envoyer un peu de stock.
Si t'es capable, envoie-moi-en, Bruno, puis on va mettre ça. Je vais te faire un beau montage. Écoute, je me mets là-dessus. Là, il est présentement 12h30, vendredi 17 juillet. Et ce soir, ton épisode va être en ligne. Fait que c'est vraiment ça. Ça va être mon plus short montage que je vais avoir fait, mais dans le temps. Là, fait qu'on va espérer que ça soit en ligne en soirée. Alors, un gros merci à tous d'avoir été en onde pour cet 23e épisode du Made in Québec podcast spécial Bob Bissonnette en compagnie de Bruno Gervais, ex-hockeyeur et aujourd'hui analyste au Réseau des sports. Et puis, ça a été un honneur de te compter parmi mes invités, Bruno. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode.
Ben, l'honneur était pour moi. Passe une belle fin de semaine.
Merci beaucoup à tous et on se revoit pour l'épisode numéro 24. Bye-bye.
Salut.
On relaxe, on chill. Tantôt, on a fait cuire des steaks sur le grill. On est si bien quand on est loin de la ville, tranquille. Les petits culs nous ramènent des branches pointues. Désolé, chère guimauve, vous êtes foutus. On va vous faire griller. Le sac au complet va y passer. La bière est bonne. Les guimauves sont bonnes. Y'a pas de téléphone qui sonne. Le chansonnier est peut-être pas bon, mais au moins il se donne à fond. Le feu crépite, la citronnelle fait fuir les bébites. Y'a pas de stress ici, y'a pas de trafic. Il fait chaud, la braise fait cuire les manches marshmallows. D'ovation de 20 minutes comme pour Maurice Richard, pas de manifestation publique comme pour Émile Bouchard, pas de comité d'accueil à l'aéroport, absolument rien pour souligner mon départ. Je serai pas intronisé au temple de la renommée aux côtés de Marc Messier pis toutes mes joies préférées. Pas de bâton d'argent, pas de lithographie, ni même une sculpture à mon effigie. Mon dernier match, mon dernier tour de glace, c'est maintenant la fin. J'accroche mes patins, les lumières sont éteintes. J'ai fait ma dernière feinte. J'aurais pu demain ou après-demain, j'accroche mes patins. Je pense à toutes les coups de poing que j'ai mangés sur le nez, à toutes les où j'ai joué blessé. Ma cheville, mon genou, mes épaules sont fatiguées. Puis mes jointures commencent à être maganées. Mes bras meurtris vous tendent le flambeau. J'ai peut-être pas dit la fleur, mais je l'ai fait des tours du chapeau. Ma petite carrière passe sous le silence. Ça y est, je tire ma révérence. Mon dernier match, dernier tour de glace, c'est maintenant la fin. J'accroche mes patins, les lumières sont éteintes. J'ai fait ma dernière feinte. J'aurais pu demain.